Podcast.
Il était 4h moins le quart lorsque Ralph traversa la rue et parcourut la courte distance le séparant de son domicile.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Roi Steven.
Ah oui, tu commences à avoir beaucoup de podcasts là, ça fait... Tu sais plus où tu es, hein. C'est plus où t'habites là.
Ouais, c'est ça, bienvenue dans cet épisode du Roi Dr. Watchlist, on sait plus. Ça va, vous allez bien?
Oui, oui, ça va, oui, et toi?
Tout à fait.
Ça va, la grande forme, tout le monde est prêt, beau, sans bon pour cet épisode plein de rebondissements.
Ça passe.
Oui!
Allez, on fait l'appel. Qui est autour de la table grand poil?
Oui, bonsoir.
Julien.
Oui, bonsoir.
Émilie.
Présente.
Émeric.
Oui, présent.
Et Urde n'est pas là aujourd'hui. Elle vient juste de déménager, donc elle est encore dans les cartons.
Mmh. Internet, mais, c'est compliqué quand tu déménages.
Mais par la magie du montage, vous l'entendrez quand même au moment où cet épisode sortira. C'est quand même beau.
Si vous donnez au Patreon.
Alors qu'à l'épisode précédent, ils t'ont entendu sans te donner, quoi.
Ouais.
C'est ça.
Et moi, je suis comme un dealer, je te donne la première dose gratuite. Hein.
Ou alors, c'est que Urde, on la brade pas comme ça, quoi.
Aussi.
Bon, alors on va parler de quoi aujourd'hui, Émeric ?
Alors, on va parler d'une chanson de Gérald de Palmas, qui s'intitule Insomnie. Vous savez, ça, c'est la fameuse chanson qui fait « Insomnie, insomnie, c'est un... » Ah merde, non, c'est pas insomnie, c'est « Elle s'ennuie ». Ah ben non,
Je l'avais pas du tout. Hein.
T'es allé la chercher loin, celle-là.
Je ne suis pas au fait de la disco de Gérald de Palmas.
Ah, c'est dommage. Eh, bah, j'espère que Julien, au montage, aura le courage de nous en mettre un petit extrait.
Mais bien sûr.
Car elle s'ennuie. Elle s'ennuie. C'est ainsi. Elle s'ennuie. Quoi que je dise, quoi que je fasse.
Fuck la SACEM.
C'était notre dernier épisode, merci de votre fidélité.
Allez,
et n'oubliez
et c'est
pas
parti.
De donner au Patreon pour les autres
pour payer la caution.
C'était bien, hein.
On va aller faire des karaokés
j'aime
maintenant
quand les épisodes durent aussi longtemps
et tout le monde allié.
Et non, on va parler de Insomnie, Insomnia en VO, deuxième partie. Toujours écrit par Stephen King, toujours sous le nom de Stephen King, toujours...
Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout, je suis retapé.
Publié par Stephen... Enfin, par Stephen King, qui est donc sorti en 94 aux États-Unis et en 94 en France, donc... C'était... Ah non, je me suis planté. En 95 en France, ouais. Toujours un an d'écart. Et toujours 717 pages en français contre 787 ou 900 selon les versions en anglais. Mais j'imagine qu'en français, c'est la même chose. Et le livre audio, il fait 20... toujours le même nombre d'heures que j'ai dit au premier épisode.
Comme je le disais dans le premier épisode, en e-book, c'est encore plus fin, c'est encore plus une fin parce que je crois que j'ai moins de 500 pages. Et du coup, quand tu le lis, t'as pas l'impression d'avancer. Les pourcentages, ils diminuent tellement lentement.
Ah, tu mets pas genre temps restant dans le livre?
Non, 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 ce serait pire.
Il m'a dit et direct 12 heures.
Et le livre audio américain est toujours plein d'axes de sons chelous, comme par exemple...
J'étais pas loin.
Ah ouais?
Ouais, t'es vraiment pas loin.
Ah, ça brille les oreilles. Hein.
Je kiffe moyen là.
Mais quel enfer.
Ouais.
Et puis, je sais pas, ça ressemble pas au livre, non?
Non, bah je sais pas, il parle à aucun moment, il parle de son ou de machin, il y a que, c'est que la vue, quoi.
Est-ce que vous préférez...
Abattez cet animal, je crois qu'il souffre.
Est-ce que vous préférez 27 heures avec cette musique ou relire le tome 1 de la Tour Sombre?
Relire le tome 1 de la Tour Sombre.
Allez, j'enlève le... Je remets le crisper.
Il y en a pour moins de 27 heures.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième partie? Et je vais me tourner vers Julien pour lui demander qu'est-ce que tu as pensé du livre.
Alors, comme je l'ai dit lors de la partie 1 après montage, je me suis vraiment fait chier dans la partie 1. Et le début de la partie 2, on va pas se mentir, est sur la même trajectoire. Et puis à un moment, ça s'emballe et ça commence à devenir bien. Et j'ai bien aimé la fin. Enfin, j'ai bien aimé en gros le dernier tiers. Et en fait, c'est drôle parce que Aymeric, tu nous as donné un site qui fait les résumés des livres. Ouais. Et en gros, les deux premiers tiers tiennent en un paragraphe et le dernier tiers tient en quatre massifs paragraphes, quoi. Pour dire à quel point le mec a installé l'histoire.
C'est souvent un chez King, ouais.
Non, mais là, il a été au paroxysme.
De connaître les petits vieux, là. On les connaît par cœur, là. C'est tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils mangent.
Non, mais les gens qui ont trouvé Sleeping Beauty...
Et même à la fin, pendant l'épilogue, on y reviendra.
les gens qui ont trouvé Sleeping Beauties long, franchement, lisez pas Insomnie, hein. Parce que pour moi, c'est 10 fois pire.
Ah ouais? Ah, moi, j'ai plus galéré
avec la chanson
Sleeping Beauties
de Palmas,
que
j'étais pas loin.
Ouais, mais ça m'étonne pas, Sleeping Beauties, ça parle de femmes qui se rebellent et qui s'émancipent, c'est normal que t'aies pas aimé.
Ah oui, je m'étonne non plus, hein.
Et les noms de A à Z, hein. C'est pas juste le premier tiers ou les deux premiers tiers qui sont longs. Hein. Sleeping Beauty, moi, d'un bout à l'autre, il m'a emmerdé ce bouquin.
Mais voilà, le livre, tu le lis, ça se passe à Derry, tu dis « Ouais, cool, on va voir des petits clins d'œil et tout. » Au final, pas tant que ça.
J'ai deux pages de clins d'œil.
Il y en a des clins d'œil. Il y en a quand même pas mal. Oui, j'en ai mis un ou deux dans le résumé que j'ai fait la dernière fois. Et je crois que j'en ai laissé un ou deux dans celui-là parce que je savais qu'Emilie allait en mettre plein. Mais et puis il y en a, c'est pas des subtils. Hein.
Ça c'est pas subtil.
Même une
pour
théorie.
Le coup,
J'ai une théorie de fan.
Et puis après, il a pris un chausse-pied, puis il a mis la Tour Sombre comme ça, là, clac. Vous allez voir, ça va avoir un lien avec la Tour Sombre, ce putain de bouquin. Ça c'est un peu moyen quand même. Enfin c'est. En ayant lu genre les 5 tomes de La Tour Sombre à ce moment de l'enregistrement, on a lu 5, hein. 6, pardon, donc 6 sur 7.
Ouais, il nous reste le 7 et le 8, mais le 8, on peut
pas. Le 8, c'est un 7,5, je crois. Mais bref, ouais, je trouve.
C'est un 4,5.
4,5.
Ça sort quand même de fucking nowhere, ce lien avec La Tour Sombre. J'ai trouvé.
On en reparlera.
Ouais. Même si Insomnia aurait été un bouquin tout seul, ce lien n'a aucun intérêt à part dire qu'il y a une entité chelou ou maléfique. Juste, il s'est servi de cette entité-là pour le relier à la Tour Sombre. Ça aurait pu être n'importe quel autre monstre méchant de l'histoire. Ça rajoute un petit truc en plus, quoi.
Ouais. Bah, je vais pas épiloguer, on en parlera pendant le résumé.
Émilie, cette deuxième partie.
Il commence. Non, mais alors de ce que je disais la dernière fois où je disais que je me souvenais vraiment pas grand chose d'Insomnie, les choses qui me reviennent, c'est des choses que j'attribue à la deuxième partie, c'est-à-dire quand on commence à avoir des éléments vraiment fantastiques. Donc j'ai pas plus d'avis que pour la première partie vu que de toute façon j'ai pas relu l'un ou l'autre. Donc voilà.
Tu n'as même pas lu le résumé.
Non, même pas la toute fin. Au grand point, on l'avait dit que je pouvais relire la toute fin pour avoir la connexion avec la Tour Sombre. J'ai complètement zappé.
Je t'avais pointé le paragraphe.
Ben après, je peux relire pendant ton résumé si tu veux.
Alors, grand poil, cette deuxième partie.
J'ai bien aimé la première, ouais, même si effectivement c'est long, ça installe beaucoup de choses, et j'ai adoré la deuxième qui prend effectivement de la vitesse. Toutes ces histoires, j'ai adoré Ralph depuis le début, donc jusqu'à la fin, j'ai bien aimé ce qu'il fait, les façons dont il réagit. Des fois un peu comme un con, mais parce que c'est un être humain en même temps, hein, il est pas parfait. Donc non, ça me si les gens sont arrivés jusque là, continuez. Ça devient encore mieux pour la fin.
Et enfin, Pomme. Cette deuxième partie.
Alors,
c'était bien.
Moi, je me suis arrêtée à 10 pages de la première partie, de la deuxième partie.
Mais non.
En gros, je suis à 51% du livre. 52 peut-être. En fait, c'est très simple. J'avais vraiment pas le temps. La première partie m'a fait chier. J'avais pas envie du temps libre que j'avais, là, ces quelques dernières semaines. J'avais pas envie de les passer à lire un livre qui me faisait vraiment pas envie. Tous les gens qui en ont marre que je râle sur les bouquins qu'on lit, au moins, cette fois, je vais pas passer tout un épisode à dire que c'est de la merde juste parce que j'avais pas envie de le lire. Et en plus, je pouvais pas le lire parce que j'ai dû lire un autre livre pour un autre podcast qui vient de rejoindre le label Podcut. Donc,
ça reste une mauvaise excuse.
Ouais, autant le premier, le début, ça va. Moi, je te le dis. Hein.
Le début, ça va. La deuxième excuse, c'est pas fou. Hein.
J'ai dû lire Mr. Brown de Agatha Christie pour le podcast Agatham Christie. Et que je vous
c'est dur sujet, madame.
Écoutez.
Mais en plus, ça fait 200 pages, t'exagères. Hein.
250, je l'ai lu sur un aller-retour en train, c'était merveilleux. C'était merveilleux.
Agatha
non, mais
Christie.
Voilà, je. Vraiment, le. Je... Oui, c'est vrai, j'aurais pu le lire, j'aurais pu rusher pour le lire et pas prendre du tout de plaisir à le lire, prendre le risque de pas prendre de plaisir et de passer la soirée à rager contre ce bouquin. Je suis sûre que les gens qui en ont marre de m'entendre râler me remercieront. Par contre, du coup, je vais être dans le même état d'esprit que les auditeurs qui découvrent le bouquin en écoutant Grand Poil, sauf que moi, bah, je vais pouvoir commenter en direct la découverte de cette histoire. Et bah, ça me fait plaisir.
Ça va bien. Ah, j'ai hâte.
En plus, tu nous as gardé la surprise, on s'y attendait pas.
Non, si, j'étais au courant.
Ah, si, je l'avais dit que je l'aurais pas lu, vous étiez au courant. Hein.
J'ai pas suivi.
Ah, si, elle l'avait dit. Par contre, juste pour avant de donner la parole à Aymeric, il y a un truc qu'a dit Grand Poil qui est vrai. Je trouve les deux personnages principaux attachants. Ça m'a un peu rappelé 22-11-63. Ce couple homme-femme qui traverse, alors là c'est pas le temps, mais qui vit des aventures. Et j'ai trouvé la description de Loïs particulièrement émoustillante. Voilà, sachez-le. Et toi, Aymeric ?
Vu que dans 22-11-63, moi toute la partie qui m'a fait chier, c'est à partir du moment où la meuf arrive, je me dis que j'ai bien fait de pas lire cette deuxième partie de livre.
Oh, ça a pas de rapport, à ce niveau-là ça a pas de rapport.
Bon, ok.
Eh bien, moi qui, si je me souviens bien, n'avais qu'une hâte pendant la première partie, c'était d'écouter la suite, eh bien, là, j'ai un peu laissé tomber l'écoute. Ça me lassait un petit peu. Je pense que c'est parce que, comme tu disais, les deux premiers tiers sont vraiment très, très longs. Et comme on a coupé à la moitié, on était dans le ventre mou de l'histoire. Au début de la deuxième partie. Et du coup, j'étais content quand la fin a commencé à se dessiner, mais j'ai eu l'impression qu'il étirait les choses et qu'il meublait, que c'est un peu dommage.
Ouais, après, il a des instants un peu lyriques, tu vois. Enfin, on sent que la vieillesse, c'est quand même un truc qui a l'air de le travailler un petit peu dans ce livre. Et tu vois, genre, parfois, quand il explique qu'il y a plusieurs villes, il y a la ville des actifs, la ville des vieux, la ville des fous, et qu'il décrit et tout. Ouais, mais bon, je parle du livre en général. Ouais. Il a parfois des petits passages de 2-3 pages qui sont sympas, mais parfois, tu te manges. Enfin, moi, je sais que j'ai fini de lire aujourd'hui, et genre, je lisais la page en diagonale, et je sais que je loupais rien, quoi. Mais vraiment, parce que il meuble beaucoup trop.
On y reviendra sur la fin, il y a un petit instant meublage assez épique. Voilà, que j'ai globalement pas détesté, je dirais pas que j'ai adoré et que
c'était moins chaud sur la deuxième partie que sur la première, quoi.
C'est ça. J'en attendais beaucoup de la deuxième partie parce que la première partie était sympathique, mais au final, je suis pas du tout déçu. J'ai rien à reprocher sur le déroulé de l'histoire, sur la façon dont il a goupillé ses trucs. C'est juste que je trouve dommage qu'il soit retombé dans ses habitudes de remplissage, mais c'est pas non plus pire que dans d'autres. Ça va.
T'es déçu en bien, quoi.
Voilà.
T'es déçu en bien.
C'est l'expression suisse.
Très bien. Bah, si tout le monde a donné son avis, on va peut-être laisser la parole à Grand Poil pour vous faire un résumé. alors, j'ai pas fait. Je peux vous raconter. Je peux vous parler d'Agatha Christie si vous voulez.
Non, ça ira, merci.
Allez hop, jingle.
Eh, vas-y.
Chapitre 14. On retrouve Ralph devant chez lui, à se dire qu'il doit des excuses à Bill pour son comportement. Celui-ci n'a pas voulu croire à ses histoires de pouvoir. McGovern a laissé d'ailleurs un mot d'excuse sur sa porte d'entrée et aussi un signe d'amitié pour Ralph. Il a dû aller à l'hôpital veiller un de ses vieux amis. Ils se retrouveront pour dîner une autre fois. Le téléphone sonne. C'est Lydecker, le shérif pour rappeler un peu les personnages, qui l'appelle pour le prévenir que Charlie Pickering, à l'étonnement général, a trouvé quelqu'un pour payer sa caution astronomique de 80 000 dollars. Aide à des amis plus haut placés que prévu, on dirait. Ralph doit faire attention.
Donc Charlie, c'est celui qui l'avait poignardé dans la première partie.
Exactement.
C'est ça.
Ok, très bien.
Et qui est un incendiaire notoire en plus.
Oui.
C'est un fou.
I love for you.
Ralph doit faire attention car ces types l'ont menacé et ont été exclus carrément des amis de la vie. Ils sont donc encore plus en mode électron libre qu'avant. La discussion entre les deux se clôt sur Ralph refusant une protection policière et avec l'idée d'appeler son vieil ami Bill pour un dîner plutôt que prévu. L'appel à l'hosto ne donne rien sur Bill, mais la nièce du mourant avoue au travers de son aura, rappelez-vous, il arrive à voir des choses dans les auras, avoir songé à assassiner son oncle pour mettre fin à ses souffrances. Le meurtre est bleu.
Ouais, du coup, alors cette partie-là, je l'ai lue. Ça fait partie des 10 pages que j'ai lues. Et je trouvais que la manière dont c'était présenté... C'est vraiment présenté comme tu viens de dire, d'assassiner son oncle. Enfin, il y avait, alors que c'est plus, je pense, un acte de, enfin, de, pas de sympathie, mais c'est, comme tu dis, pour abréger ses souffrances parce que son oncle souffre énormément. Et la manière dont c'est présenté, on dirait juste que c'est, je sais pas, que c'est méchant, tu vois, qu'elle veut le tuer, l'assassiner.
Ouais, mais c'est comme ça, en tout cas, qu'elle le ressent, mine de, enfin, c'est aussi, c'est pour ça, Laura reflète ce que tu ressens.
Ouais, d'accord, ok. Ok, d'accord. C'est pas comme, comment, le héros dont j'ai oublié le nom le ressent.
Ralph. Ralph, lui, en gros, il prend l'info. L'info lui apparaît, il l'interprète pas plus que ça, celle de Laura.
Ok, d'accord. Très bien, merci.
Du coup, Ralph est de plus en plus sur les nerfs. Il sort prendre l'air vers l'air des vieux croulants et il trouve un mot de fée, un des vieux qui est aussi mourant à l'hôpital. Chambre 315. Pile entre la chambre où est en train de mourir l'ami de Bill et la 317 où est morte sa femme. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais Ralph se met à penser quand même qu'il existe une dérive secrète, celle des auras, peuplée de formes dans la brume et de docteurs chauves. Ralph se pose et repense à tout ce qu'il sait des docteurs. Pas grand-chose, mais il semble quand même y avoir une différence entre les deux premiers qu'il a croisés en sortant de chez May Locher, sa voisine qui est morte, propre sur eux, confiant et pas forcément menaçant, au contraire de ce troisième docteur chauve qu'il a agressé tout sale et qui a découpé l'aura de la chienne. Il a une épiphanie, mais nous, lecteurs, on ne saura pas ce que c'est. En repensant à tous les membres de son entourage qui sont morts ou la côtoient de très près. Ralph finit son après-midi en contemplant la rue et les auras qui vont et viennent. Il les accepte de plus en plus et sa nouvelle compréhension de la situation le pousse à récupérer le plus vite possible les objets de ses amis dérobés par le docteur Chauve. On parle du Panama de Bill et des boucles d'oreilles de Loïs. Ralph se prépare ensuite un repas de célibataire, se rend sur le porche pour le dévorer en observant la rue. Il a l'air d'aller mieux, des cheveux noirs réapparaissant au milieu du gris. Il croise une de ses voisines arthritiques qui a l'air de le juger à chaque regard. Un petit bout de conversation et sur un au revoir, pris d'une inspiration subite, Ralph aspire une partie de l'aura de sa voisine.
Mais il met pas la misère parce qu'il ressemble à un clodo ?
Si, c'est ça. Oh là là, il vous manque un bouton, je pourrais vous le recoudre si personne n'est là pour prendre soin de vous. Elle m'a bien fait marrer la petite vieille. Et du coup, le petit shot d'aura, c'est l'explosion de couleurs, l'euphorie et en même temps la culpabilité et l'horreur. Il serait une espèce de vampire d'aura, suçant la vitalité de tous ceux autour de lui, peut-être même sans le savoir. Tintintin. Chapitre 15. Le soir arrive et avec lui Loïs, plus jolie que jamais. Et plus jeune aussi, comme Ralph. Un bisou d'aura suivi d'un vrai et il rentre dans la maison.
Alors en parlant de bisou d'aura, j'ai un petit extrait pour vous.
Ah.
Ralph raised his own finger, and a blue beam grew from it. These two narrow casts of light met in the center of Harris Avenue, and twined together like woodbine. Higher and higher the interwoven pigtail rose,
paling slightly as it went. Then Ralph curled his finger, and his half of the love knot in the middle of Harris Avenue winked out of existence.
Voilà.
C'est toujours un peu gênant, cette musique.
Vous avez eu les petits violons?
Oui.
Oui.
Oui, on les a bien entendus, là.
C'était bien. Voilà, donc il y avait ce sable pendant les moments, des petits violons pendant les moments mignons, et puis des guitares un peu dérangeantes pendant les moments où il faut, qui font peur. J'ai un autre extrait un peu plus tard.
On sent que cet e-book est bien dans son année de publication, ça doit pas être jeune.
Je ne sais pas, faudrait que je vérifie, mais je vais vérifier pendant que tu continues.
Yes. Du coup, Loïs doit traîner Ralph dans la salle de bain pour qu'il se rende enfin compte de son propre rajeunissement. S'ensuit probablement une petite séance de choses entre nos deux amis, et ils finissent dans le canapé à discuter ensemble.
Ils ont fait la chose.
Ils ont fait la chose.
Ils ont Ken.
Oh, bon, bref.
Alors, cette petite branlette, Ralph, qu'est-ce que ça fait?
Bah, j'avais demandé si c'était plus efficace que la branlette pour dormir. Mais du coup, s'il se pose dans le canapé pour papoter...
Ouais.
Ça n'a pas marché, ça n'a pas suffi.
Non. Pas pour l'instant.
On apprend que Loïs a aussi expérimenté le vol d'aura, un peu par méchanceté. Ils ont tous les deux peur d'être des vampires, les fameux centurions de Deepno.
Oh, putain, je suis désolée, mais pour l'instant, ce que tu racontes, je suis contente de ne pas l'avoir lu. Hein. C'est pas de ta faute.
Ça y est.
Hein. Je sais que toi, tu ne fais que le résumé, tu n'es que le messager.
Non, mais je prends quand même la balle.
Merci de ton sacrifice.
Ils sont interrompus par un bruit de choc de voiture dans la rue. Ils se précipitent pour voir Rosalie renversée au milieu de la route, en train de vivre ses derniers moments.
Mais elle n'était pas morte, elle?
Non, il avait juste coupé Laura, mais elle était repartie.
Ouais.
On sait pas trop ce qui se passe une fois que Laura a été coupée. Et là, on voit aussi Joe plus sage qui se précipite, désolé pour la caresser une dernière fois. C'est lui qui vient de la renverser. À la stupeur de Ralph, ses mains disparaissent régulièrement, le ramenant brutalement à sa première rencontre avec Ed. Et soudain, il voit le petit docteur chauve numéro 3, le méchant. Celui-ci se moque d'eux et se rapproche de Joe Dalton, pour lui dérober un peigne. Toujours en les narguant. Chapitre 16. Après cette mort et ce vol, Ralph fait part de ses découvertes à Loïs, et il se décide à aller à l'hôpital rapidement pour essayer de trouver les deux docteurs chauds. Ceux qui font bien leur taf sur les mourants, un peu comme Atropos coupant le fil de la vie des gens à la fin. Là, on repart sur les trois parcs dont on avait parlé au premier épisode. L'arrivée à l'hôpital se fait dans une explosion de couleurs et une espèce d'entonnoir géant qui parcourt les escaliers. À ce moment-là, j'ai pas tout compris à la description de l'arrivée à l'hosto. C'était vraiment très très chelou. La dame de l'accueil est récalcitrante à les laisser passer. Alors Ralph tente un Jedi Mind Trick avec son aura et ça fonctionne. Ils peuvent donc monter. Ce ne sont pas les petits vieux que vous recherchez. Dans l'ascenseur...
Il existe d'autres petits vieux que ceux-ci.
Dans l'ascenseur, ils croisent une mère avec son bébé mal en point. Grâce aux auras, ils apprennent que c'est le père qui l'a jeté contre un mur pour le faire taire. L'enfer pour le bébé, et pour eux deux, pour savoir lire les auras dans ces cas-là. C'est donc un peu plus triste qu'ils arrivent au deuxième étage.
C'est pratique, les auras, quand même. Hein.
Oui, ouais, t'as peut-être pas envie d'être au courant de toutes les saloperies que font tout le monde.
Ah, mais c'est la grande question. C'est la grande question. Est-ce que si on vous donnait l'occasion de savoir lire dans les pensées, vous accepteriez?
La question, c'est pour les auditeurs.
Ouais. C'est bizarre.
Répondez-nous, les auditeurs.
Ouais, mais Pomme, elle est en position d'auditrice, là, elle a pas lu.
Absolument, moi je suis l'auditrice, mais qui peut commenter et couper la parole à grand poil.
Vous êtes une auditrice libre, maintenant faut arrêter, madame. Ralph est submergé par les mauvais souvenirs des derniers instants de Caroline. Il en pleure et en perd le souffle. Loïs le console et remarque des empreintes d'aura au sol. Les deux docteurs sont bien là. Chapitre 17. En pleine alu, les sens décuplés, ils arrivent au troisième étage pour trouver l'ami de Bill avec une aura de maladie bénigne, mais Bill lui-même avec un moignon d'aura noir en décomposition. Après une scène de panique, Loïs qui essaye d'attraper Bill mais en fait ce n'est que son aura et elle se fait contaminer par le noir puis soignée par Ralph, un peu compliqué, les deux amants arrivent à la porte de Jimmy V où les deux docteurs chauves les accueillent. Toute la scène a l'air de se passer sur un autre plan car personne ne les voit. Les présentations sont faites. Les docs leur proposent d'utiliser les noms des parcs pour discuter. Eux, ce seront donc Clotho et Lachesis, et l'autre, Atropos, comme on l'a déjà dit. Ils sont au courant de l'existence du troisième, mais en attendant, essayent d'expliquer pourquoi personne ne les voit. À ce moment, Ralph imagine un gratte-ciel sous forme d'une grande tour noire au milieu d'un champ de roses.
Tintin.
Clin d'œil. Les microns slash humains habitent au premier étage et il y a des ascenseurs vers les suivants.
C'est quand même pas subtil. Hein.
Bon, c'est pas fait pour être subtil. Hein.
C'est pas, je pense que ouais.
c'est pour ça qu'on le lit, hein. C'est parce que c'est pas des. On suppose pas que c'est lié à la tour sombre, c'est que c'est clairement lié à la tour sombre. Quoi. Il y a aucun doute.
Là, pour le lecteur qui connaît pas, il voit ça, il dit bon, une tour sombre, il y aura une symbolique expliquée plus tard. Pour celui qui connaît la tour sombre, il fait ah oh, non.
Ah mon Dieu.
C'est ça qui est ouf avec ce bouquin, c'est que selon si t'as lu la tour sombre ou pas, tu as deux lectures complètement différentes et potentiellement deux interprétations complètement différentes de l'histoire.
Mais okay. Du coup, si tu le lis. Après, mais je crois que c'est une des questions des auditeurs. Si tu lis ce bouquin en connaissant la tour sombre, est-ce que genre tu te sens faire partie du club, quoi? Tu vois, genre, j'ai la ref, je sais.
Bien sûr, t'as la
ref. Dès que t'as une ref, ouais, t'as l'impression de faire partie du club. Après, là, tu vois, c'est tellement obvious, que peut-être pas tant que ça, que des trucs où tu reconnais une date, où tu reconnais une Plymouth rouge, qui est à peine évoquée, et tu comprends que c'est Christine, et enfin, tu vois, c'est, là, tu fais partie du club. Après,
Moi, je me souviens que à l'époque où je l'ai lu, je commençais à connaître du Stephen King à peu près bien, mais La Tour Sombre, j'avais jamais lu, je crois même pas que je savais que ça existait. Je chopais les bouquins qui traînaient dans la bibliothèque municipale du coin, et genre, c'est comme ça. Donc, cette ref, j'avais rien.
Non, j'avais pas non plus.
Donc, c'est vrai que ça fait un peu plaisir de le relire maintenant. Du coup, Ralph est en colère de ce qu'il a subi pour atteindre cet étage, mais les docteurs l'interrompent car il est temps de trancher. Ils vont couper le panache de Jimmy V avec respect. Et une fois fait, il se retrouve en dehors de la chambre. Avant de parler du troisième doc, Atropos, l'agent de l'aléatoire, ils forment un cercle et s'envolent hors de l'hôpital. Les Parks essayent de leur expliquer que les événements en cours font partie du cas, que la liberté de choix n'est plus applicable, chacun se fera ce qu'il est programmé pour faire. Un clin d'œil.
Je suis désolée, mais j'ai l'impression d'écouter un illuminé qui me parle d'un truc.
Ah ben là, il y a des moments particulièrement un peu chelous qui, même quand tu lis dans le bouquin, tu sais, moi, la scène vraiment quand ils sont arrivés à l'hôpital, j'ai lu le truc, j'ai fait comment je résume ça, je comprends rien à ce qu'ils sont en train de voir. Là.
Surtout avec ces noms issus de la mythologie grecque et tout, les Atropos et compagnie.
Atropos, c'est mieux que le petit doc chauve.
Ouais. Je suis sûr que Urde, elle aurait eu des trucs à nous raconter sur ça. Elle sait plein de choses sur ces trucs-là. Urde, tu nous manques.
Ça fait quoi, Julien, qu'on n'ait pas dit que tu nous manquais?
Je pense que la prochaine fois, je vous couperai au montage. De manière aléatoire.
C'est terrible, rien ne s'est passé.
Tu laisses le résumé, là, tu laisses le résumé et tes interventions. Et c'est tout. Je vois son regard qui va le faire. Je vois son regard qu'il envisage sérieusement la chose.
En fait, il est déjà en train de le faire. Il va réuploader le premier épisode avec ses interventions.
Tu crois qu'il nous a mute? je pense qu'il nous entend plus.
En fait, c'est
bref,
ça,
continuons.
Fait autre chose.
Les docs, eux, donc les deux qu'on voit là, sont des agents de la mort et de l'intentionnel. Atropos, lui, est de l'aléatoire. Au cours de la conversation philosophique, les docs annoncent la mort de McGovern il y a peu. Surprise. Loïs et Ralph.
McGovern, il est mort?
Bah là, oui. Tout le monde était surpris à ce moment-là. Et l'explication arrive juste après.
Okay.
Donc Loïs et Ralph souhaitent le voir, ce qui les trouble. Ralph sent la colère monter en lui en même temps qu'une réalisation. Si Atropos a causé les morts de ces personnes, c'est à cause des deux autres. Ils ont embarqué Ralph et Loïs dans leurs histoires, car Atropos a dû faire un truc qui leur déplaît, mais quoi? Fin de chapitre. C'est la merde. Alors, j'avoue que j'ai un petit doute sur le fait que j'ai bien pensé à écrire l'explication. C'est qu'en gros, quand il change de plan, le temps passe plus vite. Je préfère le dire maintenant au cas où j'ai oublié de le dire plus tard.
C'est vrai.
Donc là, quand ils se sont envolés, ils sont sur un autre plan, un autre étage, et le temps passe plus vite. Donc ça veut dire que...
Mais genre beaucoup plus
McGovern,
vite.
Ouais, beaucoup plus vite. McGovern, ils ont vu à l'hôpital qu'il avait son aura noire, donc c'était qu'il est en train de crever. Le temps qu'ils discutent avec les deux, là, il y a suffisamment de temps qui est passé pour que... Hop, ils calanchent.
Ah oui, d'accord, c'est pour ça. C'est juste que le temps a avancé.
Oui.
Sur Terre, et il a vieilli et il est mort.
Et tu vois, il peut te parler 60 pages des vieux qui jouent aux échecs, et en 3 phrases, il tue un personnage. Qu'on reverra
oui,
plus.
Ah bah, là,
avec
pour
une
le
explication
coup, tu...
un peu limite, quoi.
C'est dont il n'avait pas annoncé la mort 4 chapitres avant, quoi.
Ça, c'est bizarre.
Il avait un peu annoncé qu'il était menacé, qu'il y a quelque chose qui allait lui arriver, mais là, vraiment,
Panama,
tu passes
quoi,
du...
Mais...
Ouais, tu passes de...
Mais...
Bon, il va peut-être crever au moment et... Ah oh ben il est plus là.
À aucun moment Ralph dit et finalement ce restaurant n'aurait jamais lieu.
Non.
Non, non, non.
Tu vois?
Non, non,
alors,
ça, on l'a pas.
Nous, on est perdus dans nos certitudes.
On est chamboulés.
Mmh. Ben, complètement.
Chapitre 18. Ralph pose un ultimatum aux docks, qui ont l'air atterrés et sont donc très réceptifs aux menaces. Il, au pluriel, le révèle qu'Atropos a coupé le panache d'une carte vierge dans le jeu de l'aléatoire et l'intentionnel. Celle d'Ed, et que Ralph et Loïs font partie de la contre-attaque pour rectifier la solution. Deux forces supérieures opposées dans des domaines d'existence supérieurs à ceux des docks chauves eux-mêmes. Commence à y avoir baston de dieux, truc comme ça. Les docks confirment qu'en changeant un peu leurs auras, ils ont provoqué les insomnies si particulières et le réveil de leur pouvoir. Ralph pose une dernière question à propos du rat pourpre d'Ed. Les docks en ont peur et pensent que c'est lui qui contrôle à présent Ed. Dipno. Le temps passe plus vite dans les dimensions supérieures et il faut accélérer. Clotos et Lachesis, putain, c'est dur à dire, mettent en garde Ralph et Loïs de ne pas approcher Dipno sous peine de recevoir une visite du roi pourpre. De plus, la rencontre entre Ralph et les docks a changé son cas. Mais ils évitent soigneusement de parler de Loïs, dont Atropos a piqué les boucles d'oreilles, il y a Anguille sous roche.
Donc son cas, K1, pas son oui. cas, son
oui,
cas K1. Personnel. Ok,
oui,
d'accord.
Oui. Et toujours, on est dans les la roue du cas, le destin, tout ça.
Wink, wink.
On poursuit les explications sur leurs pouvoirs et leurs sources, les auras humaines quasi inépuisables, ils peuvent donc piocher dedans sans danger, et ils en auront besoin pour arrêter Dipno. Les docks les pointent ensuite vers le nouveau centre municipal de Derry, recouvert d'un linceul noir. Petite menace. C'est d'ailleurs le lieu du rassemblement de Suzanne Day et de plus de 2000 personnes. Ce sont les cibles de Dipno et ce que Ralph et Loïs doivent empêcher. Pas d'alerte à la bombe, pas possible d'approcher Ed ou Atropos, la solution serait de convaincre Suzanne Day de ne pas venir. Ça paraît compliqué, mais le temps passe si vite et Ralph les ramène dans le monde des Microns. Tu suis, Pomme, ça va?
Ah ouais, je suis, mais ça m'atterre tout ce que tu racontes.
Chapitre 19. Retour à la réalité sur le toit de l'hôpital, juste après la mort de Bill. En redescendant, Ralph et Loïs assistent à une interview de Dan Dalton. Alors, si vous vous souvenez, c'était... D'ailleurs, je sais plus moi-même. Qui était le... Non, mais c'était un des leaders du mouvement des Amis de la Vie. Voilà, ça.
Ah, mais c'est pas celui qui est tout le temps à côté de Ed Dipno.
À la télé.
Qui est
devant. Si, à la télé, ouais. J'essaie
Ed
de me souvenir juste de quel magasin il tenait dans Derry, mais ça n'a aucune importance.
Rose, je sais pas quoi, la vieille Rose, ou...
Peut-être que, ouais...
Rose fanée, un magasin de trucs d'occasion, je crois.
Oui, c'était un brocanteur. C'était lui le brocanteur. C'est ça.
Non, mais du coup, il fallait se méfier des brocanteurs chez King.
N'empêche, du coup, je viens de tilter. Il me semble qu'il y a Rose dans le nom du magasin.
Oui.
Hasard.
c'est King. Il n'y a pas de hasard chez King.
Il y a peut-être de la chance des fois. Hein.
Ou un chapeau des prénoms.
Donc du coup, dans cette interview, il réfute toute accusation d'action violente de leur part. Il ne sait pas où est Dipno, qui ne fait plus partie de son mouvement. Mais il en a visiblement très peur, ce qui n'est pas très rassurant. À la sortie du parking, Ralph recroise Trigger Vachon, qu'il avait rencontré lors de l'incident avec Ed. Je savais bien qu'ils n'avaient pas inventé un perso avec un nom si chelou pour pas qu'il revienne. C'était le camionneur qui l'a ramené chez lui la première fois qu'il a croisé Ed complètement taré au tout début.
Oh là là, je savais même pas qu'il avait été nommé ce gars-là. Ok.
Ah si si, Trigger Vachon.
Trigger Vachon, ok.
Il semble avoir un mot à lui faire passer, mais il l'a oublié. C'est une scène un peu étrange entre Ralph qui veut juste se barrer et Trigger qui essaie de se souvenir d'un truc qu'il doit lui dire. Ralph et Loïs arrivent ensuite à la clinique. Passe le vigile sans difficulté et sans utilisation de pouvoir pour essayer de parler à Gretchen Tilbury.
J'ai l'impression que c'est deux Jedi, quoi.
Ah, mais
il y a un peu de ça.
Oui, il y a un peu de ça. Les auras leur ont donné des pouvoirs et maintenant ils ont un but, ils vont s'en servir. Ils commencent à savoir s'en servir.
Attention!
Donc,
j'ai une aura et je peux m'en servir!
Mon doigt est chargé! Ne bougez pas! La secrétaire leur confirme qu'elle n'est pas sur place en ce moment, mais à High Ridge, le refuge pour femmes battues. Cette fois, utilisant son pouvoir, Loïs lui délie la langue pour qu'elle leur indique comment y aller. Et notre petit couple reprend la route. En sortant de l'hosto, ils sont à nouveau interceptés par Trigger, qui a retrouvé ce qu'il avait à leur dire. Les symboles japonais sur l'écharpe de Dipno, pareil, tout premier paragraphe quasiment du livre, lors de la première rencontre n'ont qu'un seul sens, kamikaze, ou kamikaze. Donc là, ça commence à imbriquer les morceaux de puzzle.
Là, ça commence à devenir intéressant.
Kamikaze comme le verbe du premier groupe kamikaze, je kamikaze, tu kamikaze.
Je l'ai prononcé à la japonaise, excusez-moi. Ah,
pardon, excusez-moi. Franchement, je pensais vraiment que du coup, t'en avais fait un verbe ou que non. Le bouquin n'avait pas un verbe.
Non, okay. Parce que le.
C'est le vent de Dieu.
Le saké,
que...
c'est pas le sac, tu vois, c'est ouais, le saké. Le... Donc du coup, kamikaze.
Bon, ok. Moi, j'aurais mis un accent sur saké, mais parce que je suis même pas sûr de l'avoir déjà vu écrit, en fait. Bref. Ouais.
Troisième partie. Le roi pourpre. Chapitre 20. Ralph et Loïs savent maintenant ce qu'ils mijotent, et probablement où, le centre d'aviation tout proche. Ils se prennent un petit dîner façon buffet à volonté tellement ils sont affamés, et discutent des moyens pour aider d'arriver à ses fins, et de leur manque de confiance envers Clotho et Lachesis. Ils ne peuvent pas mentir, mais n'ont probablement pas dit toute la vérité. Ils finissent leur repas en adressant un petit message physique au travers des auras à la serveuse qui était antipathique et anti-IVG pour quand même lui sauver la vie. Ils avaient détecté qu'elle avait un foie qui tombait en rade.
Comme quoi ça sert de voir les auras. Ça permet de sauver la médecine.
De faire des choix. Oui, tu vois, t'as un choix, tu dis c'est une vraie connasse, est-ce que je vais quand même lui dire qu'elle va crever parce que son foie est pas bon. C'est pas bon.
Non, mais c'est un vrai... Oui. C'est...
Développement de personnage. Chapitre 21. En chemin vers High Ridge, ils font un plein de café et d'aura pour se remettre en forme, mais en approchant de leur destination, ils se font doubler par des voitures de police qui foncent dans la même direction. Loïs et Ralph s'inquiètent énormément, surtout en voyant un linceul d'aura au loin, à fond les champignons. À fond le champignon. Putain,
un linceul d'aura?
C'est un peu comme ce qu'ils ont vu au-dessus du centre commercial, ça fait comme un truc qui recouvre au loin un gros truc noir.
Ok. Okay,
c'est comme ça qu'il le décrit, donc un linceul. Ouais. T'imagines le truc qui flotte un peu au vent, tout noir.
Ah, pour moi, un linceul, c'est dans un. Oh, c'est casse-pied, je retrouve pas mes mots.
Un cercueil.
Dans la Bible.
Oui, un cercueil, merci.
Bah, c'est un mauvais signe, hein, généralement.
Oui.
La vieille bagnole de Ralph galère sur la fin du trajet non goudronné et finit par couler une bielle, quasiment en forçant un barrage de flics. Ils finissent le trajet à pied. En s'approchant des bruits de fusillade et des hurlements... Alors, non, il manque une virgule. En s'approchant, des bruits de fusillade et des hurlements s'amplifient. Il s'agit de pickering aux prises avec les flics. Ralph et Loïs, bien décidés à aider les femmes du foyer, sont gonflés à bloc et poursuivent leur avancée en rejoignant le monde des auras. Là, je me suis imaginé Goku et Vegeta qui vont se faire les méchants. Gonflés à bloc. Ils traversent le jardin, plusieurs cadavres, probablement les acolytes extrémistes de Diplo et Pickering, à l'intérieur balancent des cocktails Molotov. Ralph sauve la vie de Lydecker grâce à son aura et poursuit son chemin vers la maison. Pickering semble intouchable, comme protégé par des forces supérieures, ce qu'ils avaient deviné des déclarations des deux docteurs précédemment vus. Repérant les auras des otages apeurés, ils décident d'en finir avec lui. Chapitre 22. Ils croisent deux cadavres de femmes abattues à bout portant. Une enceinte et l'autre est Gretchen Tilbury.
Donc, ils, c'est toujours Ralph et Loïs.
C'est toujours Ralph et Loïs, parce que là, ils ont vu Pickering qui se fait toucher par aucune balle, ils sont pas encore sur lui. Donc là, ils vont continuer à rentrer dans l'immeuble et foncer dessus. Donc, Gretchen est morte aussi. La colère et l'horreur continuent de grandir. Se rapprochant enfin de Charlie, Ralph repasse dans le monde des Microns et lui éclate la tête avec une de ses bouteilles pleines d'essence. Pickering, surpris, le reconnaît. Ralph le désarme et, emporté par la colère, passe à un cheveu de le tuer.
Putain, papy, il est au taquet, là. Hein.
Bah, il est gonflé à bloc, défoncé aux auras et il a retrouvé toute sa jeunesse, ou presque.
Bah oui, j'allais dire, on a passé quand même tout le premier épisode à faire le résumé de gens qui lui disaient qu'il avait l'air sacrément en forme.
Ouais, ça.
Donc il est sacrément en forme.
Arrêtez de dormir.
Non. Non, ça marche pas. Non, je valide pas.
T'es peut-être pas assez vieux encore.
T'as pas vu Dora?
Ah, c'est peut-être ça. C'est pas encore vu Dora. Je m'inquiète aussi, moi, si je les vois. Mais bon, Loïs réapparaît. Oui.
Au passage, un petit détail traduction. Micron, en anglais, c'est short timers. Donc les temps courts.
Ah oui, les temps courts, ouais.
Par opposition aux long timers, qui sont dans les...
Alors que là, on a Micron et Macron. Putain, je sais pas comment ils ont choisi cette traduction.
En plus, on a deux doigts d'un variant du Covid, là. Non, mais c'est ça, ouais. soit le président, soit un variant, hein, tu vois. C'est...
Alors que c'était beaucoup plus simple de dire les courts temps ou un truc comme ça.
Ouais, quoi, bah oui. Parce que c'est, enfin.
D'autant plus
là,
que.
Là, t'as le droit de faire une traduction littérale plutôt que d'inventer un mot qui est vaguement intelligent, mais que personne ne comprend la ref entre les deux. Bah, Micron, ouais. Macron, jusqu'à ce que tu le dises là. J'avais aucune idée de pourquoi il s'appelait comme ça.
Bah ouais, parce que ça veut rien dire en plus. Définition, la loi Macron. loi dictée en 1984, selon laquelle l'ordinateur dont vous avez besoin coûtera toujours 5 000 $. Voilà. Merci. Okay. C'est la loi Macron avec CH. Merci.
Bah, du coup, merci Aymeric, parce que on aura encore appris des choses.
Ouais, de ouf.
Je n'étais ouf. Tac. Alors, donc oui, Loïs réapparaît sous le regard de Charlie qui commence à bégayer un peu en voyant des gens apparaître devant lui et l'arrête. D'un mouvement instinctif guidé par une force supérieure, Ralph se saisit de la tête de Pickering et utilise sa force pour remonter dans les niveaux des Macron très haut. Cherche-t-il quelque chose? Veut-il faire un truc à Charlie? On ne le sait pas, mais Charlie tressaute de façon poupée. J'ai pas compris ce passage, je ne sais pas ce qu'il lui a fait.
C'est quoi tressauter façon poupée?
Tu prends une poupée ou une marionnette au bout de fil, tu la secoues dans tous les sens. C'est comme ça que j'imaginais Pickering en train de convulser, quoi.
Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, ok. D'accord. J'ai l'image.
Du coup, après que Pickering se soit éteint la lumière à tous les étages pendant l'intervention de Ralph, il remonte d'un cran dans la réalité pour pouvoir flotter jusqu'à la cave où sont les prisonnières, femmes et enfants restants, dont Hélène et Nathalie. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est la femme et l'enfant de Dipno. Grâce à leur pouvoir, l'ex-femme. C'est un petit détail important. Grâce à leur pouvoir, ils arrivent à les faire sortir de la cave et à les faire rejoindre l'aile de cœur sur l'avant de la maison. Après une courte discussion avec Hélène qui leur raconte l'arrivée du groupe de Pickering, Ralph et Loïs restent seuls derrière la maison. Seuls? Non, et pas longtemps, car voilà que se pointe le vieux Dorance.
Tadam. Lui, il sort de nulle part. Hein.
Lui, on sait toujours, ouais, c'est à chaque fois... il arrive, il donne des infos, c'est un peu le Deus Ex Machina du livre.
C'est le PNJ, tu sais, qui débarque pour te donner une info qui te permet d'avancer dans ta quête.
Si tu le vois arriver, il a un petit point d'interrogation au-dessus de la tête et tu sais qu'il va venir te parler.
C'est ça.
Du coup, Dorance les invite à les suivre en prenant des chemins loin de tout le monde, traversant une rivière, bref. C'est l'école buissonnière. Ne répondant pas à leurs questions, Ralph et Loïs montent d'un cran pour voir son aura. Celle-ci est éblouissante, merveilleuse, plus qu'humaine presque. Et dans ce plan, sa voix autoritaire leur demande de ne pas perdre de temps et de redescendre avec lui. Ça suffit, les conneries. 1h30 s'est déjà écoulée pour ce simple coup d'œil et il est midi. Ils reprennent leur chemin jusqu'à la sortie du sentier où les attendent une voiture et Joe plus sage à l'intérieur.
Oh, le pharmacien chelou, là.
Oui, oh, il est sympa, Joe.
C'est vrai qu'on le revoyait pas. Ok.
Chapitre 23. Sur le retour vers Derry, Dorance leur explique qu'ils forment un cathète lié à l'intentionnel. Leur destination est le centre municipal, contrairement à l'avis de Clotho et Lachesis.
Pas mal, elle a roulé les yeux au ciel. Et je crois qu'elle s'est dit, ouais, forme un cathète, elle a... Genre, oh là, ça y est, c'est bon, vas-y.
Ah, je connais ce mot. Je comprends le point de Julien, en fait, le côté ça y va au forceps sur les refs. C'est pas un tome de la Tour Sombre, mais c'est un tome de la Tour Sombre à un moment donné. Enfin,
ouais,
c'est très bizarre.
Mais ça devient, même si c'est un peu, c'est des grosses références, ça reste un peu, je trouve, moi, logique dans la progression. Hein. On leur a parlé du cas, ils sont reliés ensemble, le cathète, ça paraissait la suite.
Oui,
logique.
Mais c'est déjà tout ce qu'il y a avant, c'est déjà de trop. En fait, il y a pas 7 tomes plus 4,5, c'est il y a 6,5, donc c'est Insomnie. Est-ce qu'il y a 6 terres avec ce qu'on va lire après là, Cœur perdu en Atlantide, je ne sais pas, on verra. Puis 7. En fait, c'est une arnaque la Tour Sombre, c'est pas 7 tomes, c'est 25.
Ça ne s'arrête jamais.
On l'a toujours dit. La Tour Sombre connecte tous les univers de King.
Ouais, mais parfois c'est mieux.
Ouais, mais c'est le plus obvious, donc du coup ça peut paraître un peu too much, quoi. J'entends.
Donc ils arrivent enfin au centre où l'animation bat son plein. La réunion doit se tenir et ils ne trouveront aucun moyen de persuader Suzanne Day du contraire. Dorance dit à Ralph qu'il est devenu le centre des événements et que tout se jouera avec lui. L'intentionnel et l'aléatoire l'observent de près. C'est des concepts qu'il observe. Il se quitte sur une dernière déclaration mystérieuse de Dorance. A priori, c'est compliqué dans sa tête et avec les pouvoirs supérieurs pour pouvoir donner des explications. Et il préfère éviter. Déso, pas déso, Ralph, t'y vas comme t'es venu. Tu te démerdes. De l'intérieur, les auras réapparaissent. Ralph d'abord, puis Loïs, constatent la nature du linceul qui entoure le centre. Leur courage en est ébranlé, mais ensemble, ils poursuivent leur chemin. Les gens autour d'eux, même s'ils ne la voient pas, la ressentent. Un sentiment englobant de cafard se lit sur tous les visages. Un petit shoot d'aura, et ils se sentent mieux. Cela déclenche aussi la vision de créatures étranges, visibles à personne d'autre. Elles donnent l'impression de charognards se regroupant pour un futur festin. Pendant que Loïs fait diversion auprès d'une journaliste, Ralph se concentre à la recherche des traces d'Atropos. Il finit par trouver les empreintes sanglantes, et ils repartent en chasse. Alors là, on va arriver à des moments où ça va devenir... On va s'enfoncer dans le fantastique et un peu nawak. Hein.
Ah bon ?
Oui, oui.
On va commencer à faire ça maintenant ?
Oui, oui, on n'y était pas encore.
Ok,
très bien. Ce n'est qu'un...
Chapitre 24. Obligé de revenir à la réalité pour traverser le plus épais du linceul, et une fois la barrière franchie, il remonte de deux crans chez les Macron pour retrouver la piste de d'Atropos. Un petit point culotte pendant le reste du trajet, Loïs a des soucis techniques.
Ah,
ça faisait longtemps. Les points culottes, pas des soucis techniques.
Bah, en gros, comme elle a maigri, sa culotte ne tient plus correctement, donc elle a tendance à la perdre pendant qu'elle marche.
Ah, alors je pensais qu'elle avait, vu son âge, des soucis de fuite urinaire.
Non, c'était pas le cas.
Bon, ça aurait pu.
Il y a plutôt un fort risque qu'elle se retrouve cul nue au milieu du centre.
Très bien. Ok.
Et c'est un détail qui n'a pas grand intérêt, mais qui va insister dessus pendant plusieurs pages lignes. Donc je me suis dit, bon, on va le noter, peut-être que ça reviendra.
Est-ce que c'est une culotte blanche? Parce qu'on a besoin de savoir si c'est une fille bien ou pas.
Et rose, je crois, non?
Ouais, tu me demandes trop de détails, ça fait un petit moment.
Je sais plus non plus.
C'est important. Les couleurs, c'est important chez King, vous le savez. Les couleurs de culotte.
C'est les couleurs de... La piste les mène au travers de l'hippodrome, puis à Nebold Street, clin d'œil, où ils croisent un poivreau qui va leur permettre une petite recharge d'aura. On dirait que ça devient nécessaire plus régulièrement maintenant. En même temps, ils ont toujours pas dormi depuis un bon bout de temps, je pense. La piste les amène finalement près de l'aéroport. Ralph est déterminé à se débarrasser d'Atropos s'il le croise. Au bord du chemin, un vieux chêne mort, abattu par la foudre, c'est son antre. Chapitre 25. Alors là, je suis pas sûr que tout le monde va comprendre, hein, parce que cette partie à résumer, c'était pas évident. Ils sont obligés de prendre le risque de remonter d'un cran pour pouvoir supporter l'odeur présente lors de leur parcours sous l'arbre. Le tout baigné par une lueur rougeâtre désagréable. Le temps passe plus vite, le temps presse. Ils arrivent finalement dans la tanière d'Atropos. La pièce crasseuse est à côté d'un entrepôt de souvenirs collectés par Atropos, un véritable labyrinthe de murs de souvenirs. Il doit être là depuis des centaines d'années. Donc il a peut-être croisé Pennywise à un moment. Et c'est dans ce labyrinthe qu'ils doivent pénétrer pour trouver l'origine d'une espèce d'alarme psychique qui semble les guider vers un but. La traversée est très éprouvante. Un des murs est d'ailleurs recouvert de billets, ce qui répond à la question du financement de Deepno.
Donné au Patreon.
J'imagine le petit nain qui se promène avec sa mallette et qui... Tiens. Ils arrivent finalement dans un sanctuaire aménagé avec en son centre une bille noire recouverte d'un linceul noir. Dans ce sanctuaire, ils retrouvent des objets qui ont l'air de chanter, d'être vivants. Ce sont des possessions de tous les gens qui seront au centre ce soir. Il y a même une chaussure d'Hélène, du jour où Ed l'a battue. La ville absorbe la substance de ces objets et en même temps les relie en un cathète.
Ralph les objets forment un cathète ?
La ville, en gros. Au final, c'est la ville qui forme un cathète au travers de ces objets.
Ah, c'est la ville. D'accord, ok.
Ralph a une épiphanie sur comment récupérer la bille. Son aura prend la forme de ciseaux au bout de sa main et il entame la découpe du linceul, qui hurle lorsque la première entaille est faite. Ralph dépense toute son énergie mentale et avec le soutien de Loïs parvient à ouvrir complètement le paquet pour y trouver en son centre un anneau, l'alliance de Ed et Hélène.
Et là, il y a Sauron.
Voilà.
Qui a mis son œil sur lui.
Ce moment faisait très très...
J'ai un son qui accompagne le
l'anneau pour les gouverner tous.
Pardon ?
Je t'ai pas entendu, Émeric.
Pardon, oui, je disais, J'ai un son pour le déchirement.
Ah. Ah. T'as envie de l'entendre?
Est-ce qu'on veut vraiment l'entendre?
Vas-y. Ça, je crois que c'est le convoi de la liberté. Et...
avec quelques visuels.
Ça a fait sursauter l'histoire.
Non, en même temps, c'est bien désagréable, comme de, avait l'air d'être décrit le fait d'essayer de découper ce truc.
C'était pas la. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, la 13 noire, là, ou je sais pas quoi.
Ça aurait pu être une des. Moi, j'ai pensé au départ à une des boules de Merlin, de l'arc-en-ciel.
Voilà. Ok.
Ouais, la 13e noire.
La 13e noire qui faisait pas des cris comme ça aussi, dans la tour sombre. Dans la vraie tour sombre.
Non, elle fait pas des cris. Elle, par contre, elle peut attirer les gens.
Okay. Il y avait des voix dans la cave. C'était. Dans
c'était la grotte. Il y avait une grotte qui.
Mais sinon, la bille, en fait, elle. La bille, la boule de bowling, là. Elle était plutôt. C'était plutôt. Elle dégageait un truc. Genre, elle exerçait une espèce de contrôle mental. Elle. T'avais l'impression de te regarder. Un truc comme ça.
Du coup, cette alliance. Ralph essaye de la prendre et il constate qu'un autre anneau est sur le sol, en plus de celui qu'il a dans la main. Il répète l'opération plusieurs fois, mais est convaincu que le premier qu'il a pris est le bon. L'anneau est le moyeu, donc le centre, et les contrefaçons sont comme des rayons. Ils ne fonctionneront plus sans le moyeu.
Clin d'œil.
Ah, celui-là était fort aussi.
On passe aussi la citation de Tolkien, un anneau pour les gouverner tous, etc., etc.
Ah oui, si, je crois que c'était littéralement dans le roman.
C'est un hommage.
Non, mais il le dit, c'est de Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il se souvient qu'il a lu Le Seigneur des Anneaux. Voilà.
Ça fait la boucle est bouclée. Chapitre 26. Le retour s'annonce compliqué entre l'épuisement et le labyrinthe. Et le manque de prudence se paye, Atropos les ayant rejoints et menaçant le panache de Loïs sous son scalpel rouillé. Il veut récupérer son bien. La peur de l'échec est du roi pour...
Tu veux dire sa ficelle de ballon?
Sa ficelle de ballon?
Oui, c'est comme ça que ça s'appelle le truc qui découpe Atropos. En VO, c'est Balloon Strings ou un truc comme ça.
Ah oui?
Ok.
Ah, en français, c'est des panaches, ouais. Mm. Du coup, j'imagine ça plus grand qu'un Balloon String.
Ouais, pareil.
Ça n'a pas la même gueule.
Genre une ombre, quoi.
Ouais, c'est ça. Ok, ouais, du coup, Balloon String.
Du coup, il fait... Vas-y, Roddy, fait quoi, Atropos?
Bah, il a réussi à aller surprendre.
Si
aller
tu m'en rends pas le truc, je la coupe.
Tu sais, il a son scalpel au-dessus de la tête pour essayer. Il dit, si tu bouges...
J'y coupe.
Je coupe, mais...
J'y coupe.
Son scalpel, j'avais compris. J'avais en tête son scalp... Je me disais son scalp rouillé au-dessus du panache. Qu'est-ce
arrêtez
que c'est
la drogue, madame. Posez
quoi,
cette bière.
Pourquoi? Laissez-moi tranquille. Ok. J'ai plus l'image, merci.
Ok. La peur de l'échec et du roi pourpre se mêle au triomphe d'avoir capturé Loïs. Il s'ensuit une bagarre, Atropos finissant prisonnier dans le slip de Loïs. Ah, je savais bien qu'il y resservait à un moment ou à un autre.
Pardon.
Et roué de coups par Ralph.
Attends. Pardon.
Pourquoi? Il est tout petit, c'est un être d'1m20.
C'est un nain voleur de slip, il s'est fait attraper quand même.
Tu peux faire 1m20 et pas finir prisonnier dans une culotte.
Elle a maigri parce qu'elle a rajeuni.
Mais, alors, elle a maigri parce qu'elle a rajeuni. Bon, déjà, on pourrait s'arrêter sur cette phrase. Mais bref, alors, c'est
l'histoire,
elle est
comme ça. Il y a eu bagarre, une culotte est tombée, il a trébuché, enfin, je sais pas.
Ah, oui, mais non, mais d'accord. Non, mais moi, l'image que j'ai en tête quand tu dis « il est prisonnier dans la culotte de Loïs », j'ai pas en tête que le tissu est tombé et qu'il s'est pris les pieds dedans, tu vois.
Alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé, je disais une connerie, mais en gros, oui, elle porte plus la culotte à ce moment-là.
Très bien.
Si en même temps, tu nous dis pas tout.
Ah, pardon, bah j'essaie... Vraiment, cette partie... C'était un peu le bordel. J'aime bien parce que le côté on ressent bien en plus dans la façon dont ça a été écrit l'ambiance sombre dégueulasse. J'étais oppressé en lisant à limite claustro, mais ça rend pas bien en résumé. C'est pas facile.
C'est parce que c'est le fait d'être bloqué dans la culotte de Loïs qui t'a rendu claustro. Comment ça se passe?
Madame, arrêtez.
Parler de la culotte de cette dame.
On a trop parlé de cette culotte.
Très bien. Avançons.
Alors, donc, du coup, Ralph peut le rouer de coups, hein, il mérite. Loïs, elle a aperçu ses boucles d'oreilles sur le dock, ce qui lui a redonné un coup de jus sous la colère. Atropos prisonnier, Ralph sent qu'il faut s'en débarrasser. Mais Loïs ne veut pas le laisser faire. Il la fait retourner vers l'entrée pour qu'elle n'assiste pas à la suite. Elle a encore bon cœur, Ralph, il est vénère. Loïs partie, Ralph commence une torture méthodique de la créature avec son propre scalpel, jusqu'à obtenir la promesse de ne pas faire de mal à Loïs, lui-même et Dipno. Après quelques morceaux, qu'il perd, hein,
ouais, Atropos finit par promettre. Il le découpe salement, c'est...
Oui, je crois que c'est, il commence par une oreille, enfin...
D'ailleurs, il dit à un moment un truc du genre, encore deux coupures et je revomis.
Oui, non, bah, oui, oui. Oui, non, c'est une partie sale. Atropos finit par promettre. Ralph le libère rassuré. Mais celui-ci a une dernière surprise. Il montre une scène de mort à Ralph de quelqu'un appartenant à l'aléatoire. Une personne qui est apparemment chère à Ralph. À ce moment-là, je me dis que c'est probablement Hélène et que cette personne mourra s'ils lui mettent des bâtons dans les roues. La décision est à Ralph qui hurle de frustration.
Alors j'allais te poser la question tout à l'heure et je me suis dit que si ça se trouve j'avais pas bien écouté, c'est peut-être le cas, mais elle est où Hélène à ce moment-là? Qu'est-ce que
elle était dans le truc de High Ridge qui est en train de flamber et ils l'ont sauvée. Donc elle est avec les flics en ce moment.
Ok.
Elle est pas au rassemblement.
Ouais.
Elle va aller au rassemblement. On va la retrouver, je crois, un peu plus tard.
Et Nathalie, du coup, elle est où?
Bah avec sa mère.
Avec sa mère.
Ok, très bien.
Chapitre 27. Ralph finit par... tu verras quand on aura fini. Non, ça va, on a bien avancé. Il reste 3 pages.
Ça va vite.
Oh bah ça va, oui, on est à la fin. Vas-y.
Je parle vite et comme t'as pas beaucoup lu, t'interromps pas beaucoup.
Les rageux qui trouvent que je rage trop ne pourront pas se plaindre.
Ah bah, s'ils trouvent que tu rages trop aussi. S'ils trouvent que tu rages pas assez, non, ils se plaindront pas.
Bref, chapitre 27. Ralph finit par rejoindre Loïs hors de l'arbre. Il lui rend ses boucles d'oreilles, mais ne donne aucun détail. Avant de retourner au centre, il lui propose de passer par le parc pour essayer de retrouver Dorance. Ils en profitent pour un shot d'aura pour masquer leur fatigue, et ils sentent aussi que ça leur... Comment dire? Ils vont payer tous ces excès et manques de sommeil. De son côté, Dorance reste sourd à leur appel à l'aide, et ils reprennent leur chemin. C'était très utile. Ralph les emmène près du parc, face au Red Apple, là où il semble que va se jouer la vie de la personne mise dans la balance par Atropos. Ralph, lui, est déterminé à ne pas avoir à choisir, et il envoie une convocation psychique aux deux autres docks. Les deux petits hommes sortent des chiottes de chantier. Alors, je sais pas si c'est des chiottes de chantier, des chiottes publiques, mais la façon dont c'est décrit, ils sortent des chiottes de chantier toutes proches.
Sachant qu'il y a une nouvelle de King sur des chiottes de chantier, qui est vraiment bien, en plus.
Vivement qu'on la fasse.
Ça viendra.
Ouais, ça passera.
Du coup, ils sortent des chiottes toutes proches et Ralph les interpelle immédiatement pour qu'ils crachent la vérité. Qui est la véritable cible de l'aléatoire? Ce n'est pas Suzanne D, et la vie des 2000 personnes du centre importe peu. Ils finissent par lui montrer un visage de petit garçon, un de ceux qu'ils ont sauvés à High Ridge d'ailleurs. Apparemment, des plans sont prévus pour lui, et il ne doit pas mourir avant. Ce sera une personne plus importante et impactante qu'Hitler, Churchill ou César. Et actuellement, seul Ed peut lui faire du mal, car il n'appartient plus ni à l'intentionnel, ni à l'aléatoire. Si l'enfant meurt, la tour des existences s'effondrera.
On est d'accord que lui, on l'a jamais vu, hein.
Non, si. Jamais.
Le gamin?
Ah, le gamin, je crois qu'il l'a peut-être mentionné vite fait.
Dans le livre ou avant?
Non, en dehors du livre.
En dehors du livre, non.
Ah, je commence à me monter des théories, mais du coup, ok, j'arrête.
C'est pas Jake.
J'allais demander, ça se passe en quelle année, déjà, tout ce bordel?
Dans les années 90, je crois.
Ouais. Ouais, ça doit être ça. Du coup, les deux sont là, ils lui balancent la vérité. Ralph promet de stopper Ed si les docks promettent de sauver la vie qui a été menacée par Atropos. Le dilemme est grand pour eux, ces vies n'ont pas la même valeur, mais c'est justement le point de vue de Ralph. Chaque vie se vaut, et ils arrivent à un accord, dont ni nous ni Loïs n'avons les détails.
Ouais, je crois c'est raconté du point de vue de Loïs qui entend ce qui se raconte, et de temps en temps, elle entend pas, il y a des choses qu'elle entend pas.
C'est la scène suivante où justement il va y avoir une lueur divine qui appelle soudain et qui parle que tous ceux qui ont le pouvoir entendre, qui dit il peut en être ainsi. C'est comme ça que j'imagine.
En fait,
Loïs,
Jacques a dit
anecdote perso. Avant qu'on commence d'enregistrer, je vous ai dit attendez, j'arrive dans 3 minutes, je finis d'écouter le podcast que je suis en train d'écouter.
Et là,
en fait, j'étais en train d'écouter le dernier épisode de Méta de choc sur les mouvements type sorcellerie, New Age, machin. Et là, de t'écouter parler, mais je me dis mais faut qu'on sorte de ce podcast, ça va nous faire du mal. Hein.
Non, ça
colle trop à ce que la dame disait dans le podcast quand elle disait j'ai réussi à m'en sortir, tu vois, j'ai l'impression de...
Ça va être moins traumatisant, Pomme, t'inquiète pas.
De toute façon, tu continues à faire des infidélités, donc on a compris le message, toi tu vas sortir.
Tu ne tireras pas dans la tour. Voilà.
J'irai pas dans la tour.
T'as resté avec les microbes.
Ça serait dommage de s'arrêter maintenant. Hein.
Oui, c'est clair, ouais.
Un effort, encore un effort. Du coup, Loïs est aveuglé par la scène. Bah alors, c'est un petit effort de 700-800 pages.
Non, mais je veux dire, c'est pas... c'est une balade, c'est trop bien le tome 7.
Ouais, on m'avait déjà dit ça.
Après, on pourra regarder le film.
Et après, on pourra regarder le film.
Nugneux, et pourquoi tout le monde dit que je suis salé?
On me ment, je suis pour rien.
Reprenons. Loïs est aveuglé par la scène, au bord de la folie, devant la puissance de cette aura. Les ciseaux de l'Achésis se retrouvent noyés dans le flux d'énergie. À quoi vont-ils servir? Après une courte discussion entre Ralph et les docs, celui-ci accepte quelque chose et confirme plusieurs fois qu'il est prêt pour la suite. Loïs est impuissante et assiste à tout ça de loin. Les docs préparent Ralph, qui leur tend le bras. Et ça sent pas bon pour lui. Il accepte ce qui va se passer, mais son aura trahit sa terreur. Et là, Ralph se fait disséquer l'avant-bras sans rien dire, son sang coule un moment, puis les docs referment les plaies.
Tu te vois dubitatif.
On sait pas.
Ah, surprise. D'accord. Préparation paiement.
C'est ça.
Ok.
Pendant ce temps, Loïs, elle, entend une voix qui l'appelle, une espèce de voix impérieuse et une aura verte. Elle ne peut y résister et rentre dans la lumière.
Impérieuse, ça colle tellement pas avec la voix qu'a pris le narrateur quand...
Ah ouais.
Oui, il a pris une voix. Moi, je me suis dit, c'était. J'ai imaginé que c'était Dorance parce qu'il a pris un petit peu le même ton. Un peu doux, un peu illuminé, ouais. Gentil.
Ah oui, là, la façon dont c'est écrit, c'est vraiment un truc qui lui commande de venir et elle a pas le choix, quoi. C'est un peu façon le Bene Gesserit, c'est la voix, tu dis un truc, le mec approche. Chapitre 28. Hop. Ralph porte désormais une marque et Loïs revient d'une rencontre avec un homme vert, très puissant mais qui a l'air bon. Il lui a conseillé de rendre les boucles d'oreilles à Ralph. Là, ça devient...
C'est la couleur complémentaire du roi cramoisi, c'est le roi...
c'est le géant vert.
Le roi d'émeraude, le roi vert de gris.
J'ai des explications...
Tu nous en feras part après de ta théorie ou tu
oui, tout à fait.
Dose.
Ouais, non, après, ouais.
Oui, ça, ouais, le magicien d'Oz. Ouais.
Moi, je suis à deux doigts de me dire que la fin de cette histoire, ça va être que Ralph se réveille et qu'il a rêvé tout ça.
Ah, si, si.
Qu'il a fini par sombrer, peut-être parce qu'il a suivi les conseils d'Emily et qu'il a rêvé de tout le reste.
Toujours sur mes conseils.
Maintenant, le temps presse. Ed est quasiment arrivé. Ralph demande l'accord de Loïs pour lui siphonner son aura. Il va avoir besoin de beaucoup. Elle dit oui et se retrouve vidée quasi intégralement de sa substance.
Les docs vont s'occuper.
C'est ça. Vous savez, ça l'a fait revenir à son âge à peu près normal de l'époque. Les docs vont s'occuper d'elle pendant que Ralph essaye de rejoindre Ed dans son avion. Il va prendre pour cela le même chemin que les docs, c'est-à-dire les chiottes. Les chiottes magiques. C'est pas que c'est le bus magique, mais plus dégueu.
C'est comme dans Fortnite. Il est la rêve crampouelle.
Oui, j'ai la rêve maintenant. Et pour retrouver Ed, il va aussi utiliser l'alliance récupérée chez Atropos. Après un dernier au revoir, Ralph pénètre dans le fond des chiottes qui lui montre actuellement la cabine de l'avion où est Hypno. Ça vous rappelle pas quelque chose? Genre Roland qui va dans l'avion où il y a
Eddie.
Oui. Un peu à ça que j'ai pensé à ce moment-là.
Ouais.
Dans l'avion,
il y a un niveau qui s'écrase, ça me fait penser à Running Man, mais...
Oui, alors, ça finira pas par un saut à l'élastique avec dans l'avion, mais à un niveau de alors ça doit être de Macron parce qu'il est invisible. Correcteur automatique qui est passé par là. Aide à son bandeau de kamikazes, l'air fou et une bombe artisanale sur le siège passager. Ralph se décide à couper les fils en redescendant d'un niveau lorsqu'une apparition le surprend. C'est sa mère, Bertha, morte depuis 25 ans. Et là, ça devient encore plus le bordel. Elle est là.
Prendre des notes.
Ouais. Ah, elle a dû prendre des produits. Ouais. Elle est là avec un message qui lui demande de se mêler de ses affaires. Et au cours de cette conversation, l'environnement autour de sa mère devient de plus en plus réel, reproduisant sa cuisine, et l'avion, lui, s'estompe.
Attends, sa mère, elle est revenue d'entre les morts juste pour l'engueuler, genre, mêle-toi de ton cul.
Attends, elle revient, tu vas voir.
Ça vient, ça
d'accord,
vient.
Ok.
Du coup, sa mère aussi se transforme en une espèce de créature de cauchemar. En fait, Ralph n'est plus au Kansas, mais il est dans la cour du roi pourpre.
Oh.
Ah là là.
La créature qui serait le roi pourpre et rendrait fou n'importe qui sans déguisement s'auto-proclame le roi poisson. De mémoire, c'est une rêve biblique ou arthurienne, ce truc-là.
Là encore, Urde nous manque. Je suis sûr qu'elle saurait.
Là,
le Fisher King, je crois que c'était un nom de. Je crois
c'est
que
pas
c'est,
des bons.
Je crois que c'est Arthur.
Non, c'est Fisherman's, plus tard, mais...
non, Fisherman's Friends. Ça n'a rien à voir.
Pour les personnes qui ont lu ça, une créature qui rend fou si elle a pas de déguisement, ça oui. Vous rappelle personne.
Bah si, Pennywise,
tout
ouais.
À fait.
Ouais. J'en reparle après, mais ouais.
Le Roi Poisson est un groupe de musique rock créé au printemps 2006. Ils c'est sont originaires de Montréal au Québec. Les styles musicaux vont du death metal au... Bon, faut cliquer sur le lien pour avoir le fameux...
Non, j'ai senti plutôt une traduction un peu littérale de Fisher King, qui est un terme que j'ai déjà vu dans des romans autour de Arthur.
C'est pas le Fisher King, c'est le Kingfish. Et après, d'ailleurs, c'est la Queenfish, parce qu'en ah oui. Fait... Trois petits points. Je t'offre la suite.
Très bien, très bien. Alors, il n'y a pas ces nuances effectivement dans la version française là.
Alors, d'après Google, Kingfish, c'est un burger de Burger King. Du coup, je comprends pas de quoi vous parlez.
On parle d'un burger
soit un groupe
qui
de
parle.
Métal, soit un burger.
C'est le Hamburglar de McDo.
Parce que okay. En fait, c'est la plus grande peur de Ralph. Enfin, une des plus grandes peurs de Ralph. C'est quand il allait pêcher avec son frère Johnny, qu'il a pêché un gros poisson-chat qui a failli lui manger le bras, et que en fait son frère lui avait raconté que les poissons-chats, ça a des barbillons qui sont empoisonnés, et que si tu te fais piquer, eh ben tu vas finir paralysé. Voilà. Bref, on est dans la partie la plus intense du livre, et on a un petit
flashback de pêche, et j'avoue que cette partie-là, je l'avais à peine comprise, que j'ai résumé ça en une phrase, et que du coup, maintenant que
oui,
tu le racontes comme ça ça me fait penser au roi poisson. Mais avant ça, j'étais tellement perdu à essayer de résumer cette partie-là que j'ai zappé tout ça.
Ah oui, parce qu'il s'est avéré qu'en fait, le poisson qu'ils avaient pêché, c'était pas un monsieur poisson, c'était une madame poisson qui était pleine de d'œufs ou de bébés prêts à sortir. Et que quand il l'a attrapé, je crois qu'il pêchait à la nouille, donc elle avait l'avant-bras entièrement dans le poisson, et donc en essayant de se dégager, il l'a jeté par terre, il l'a écrasé, c'était dégueulasse. Je pense que Urd a adoré ce message.
Il nous a fait une Canagan, là, comment il s'appelait, le curé,
Callahan.
Il nous a fait une Callahan, en fait, un peu sur cette histoire de poisson.
Non, ah oui, parce que ça dure pas 200 pages.
Un ressenti, si.
Un peu, ouais, j'avoue. Bref, au milieu de cette conversation surréaliste, Ralph prend une des boucles d'oreilles de Loïs et prie que l'homme vert soit vraiment du bon côté. Il glisse une des pointes entre ses doigts pour espérer déchirer le linceul de mort rouge de l'entité avec. Galvanisé par cette pensée de Loïs, il attaque le roi poisson et lui crève un œil avec la boucle d'oreille. Sous la douleur, l'illusion s'efface et le roi pourpre blessé se trouve devant lui sur son trône. Ralph l'attaque à nouveau et le roi engloutit son bras cicatrisé. Malgré sa peur, Ralph déclenche le piège posé par les docks.
Attends. Qui c'est qui engloutit le bras?
Le roi pourpre, il engloutit le bras de Ralph,
bon.
Qui vient de lui essayer de lui recoller un pain.
Oui, d'accord, ok. Mon cerveau avait traduit que c'était Ralph qui avait englouti son bras cicatrisé, je comprenais pas.
Une entité surnaturelle qui prend la forme de la plus grande peur des gens, mais qui cela peut-il bien être?
Je me demande.
Comme c'est étrange.
D'ailleurs, je pense que Emily va y revenir, mais souvent, Ralph, il fait référence à un oiseau préhistorique qui vole au-dessus de Derry. Et il me semblait que c'était la peur de Mike, le bibliothécaire, non?
Il avait un ptérodactyle, ouais. C'est ça.
Alors, vu la tête d'Emily, elle n'a pas prévu d'en parler.
Il y en a un, c'est la peur de, mais parce que, en fait, entre ça se passe à Derry, et, en effet, il y a des liens à faire entre le roi cramoisi et Gripsou. Enfin, et ça, en tout cas, je suis pas allée à ce niveau de détail-là, des peurs de chacun, mais je crois que les oiseaux, je sais pas si
c'est, il me semble que c'est Mike, hein. Parce que c'est Mike qui finit bloqué dans un tunnel ou dans une usine ou je sais pas quoi, il y a ce fameux oiseau.
Une espèce de tuyau, c'est une espèce de tuyau de travaux, machin, ouais. C'était Mike. Okay.
Excusez-moi d'être précis.
Très bien, très bien.
Ça, mais vu que j'avais pas relu ça non plus, tu vois, il y a des liens que je fais plus, hein. Soyons honnêtes.
Par rapport à ça, d'un point de vue timeline, ça se passe quand? L'histoire d'insomnie.
8 ans après la fameuse inondation de 85.
C'est ça, il nous le rappelle.
Oui. Mais l'inondation de 85, ils sont enfants ou adultes?
Non, c'est adulte, c'est la fin. Ouais. C'est la fin des adultes.
Ok.
Bah, du coup, j'ai pris un accent parce qu'ils le disent genre tous les 60 pages.
Il rappelle régulièrement des clins d'œil aux événements de Derry la Maléfique.
Ok.
Donc, oui, tu es de.
Julien fait très bien le clin d'œil discret.
Donc, le roi pourpre, alors, pourpre cramoisi, pareil, hein, on traduction à des années de distance et pas par la même personne, probablement. Le roi pourpre a englouti l'avant-bras de Ralph, et là, surprise, motherfucker!
Il y a une bombe
ça
dedans.
Ça pète. Il y a une bombe dedans. Une explosion verte déchire les pans de l'existence, et le roi est emporté sur un niveau beaucoup trop élevé pour Ralph. L'illusion se dissipe à nouveau, et il est dans le cockpit de l'avion qui a entamé son piqué suicidaire. Ralph fait un retour d'urgence à la réalité pour essayer de désamorcer la bombe et faire virer l'avion de bord. Il lutte avec Ed, et alors qu'ils sont sur le point de s'écraser tous les deux, Loïs le blink dans un niveau supérieur. Et ils peuvent sereinement regarder l'avion se diriger vers le sol. Ed est déjà mort à ce moment-là. Chapitre 30. L'avion s'écrase sur le parking de l'hippodrome. La bombe éclate et fait sauter toutes les vitres alentour. L'œil de cœur qui était proche de là est soufflé contre un mur, Suzanne Day est décapitée par un morceau de verre volant et 71 personnes seront piétinées dans la panique. Moi personnellement, j'ai trouvé ça un peu extrême que Suzanne Day se soit fait décapiter quand même par le morceau de verre. Je sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'il est allé jusque là pour elle. C'est un peu
vache. C'est gratuit. Je pense qu'il aime pas les féministes défenseuses de droits des femmes, etc.
Je sais pas, mais ça faisait un peu attaque personnelle. Hein.
Les hystériques qui desservent le combat, tu veux dire?
C'est ça.
Qui desservent la cause.
Le petit Patrick Danville, ah oui, je crois que je n'avais pas noté son nom avant, la cible de l'attaque, lui, n'a rien. Et on en profite pour en apprendre un peu plus sur lui. C'est un jeune artiste.
Patrick Danville, c'est celui qui vaut plus que tout le monde réuni, c'est ça?
C'est ça.
Ok, Patrick Danville, donc. Putain, quel nom de super-héros.
Ouais.
Très bien.
Ça va. Vivement le prochain tome. C'est un jeune artiste surdoué de 4 ans, dont la dernière production est un splendide dessin d'une tour noire au milieu d'un champ de roses, avec à son sommet le roi rouge qui observe un pistolero qui s'avance. Roland, lui dira-t-il.
Clin d'œil.
Voilà, c'est même plus clin d'œil, là, c'est les phares dans la gueule,
c'est les nouveaux pleins phares permanents qui t'arrivent par derrière et qui t'aveuglent sur l'autoroute la nuit.
Avec sa mère qui garde la tête froide et lui-même d'un calme surnaturel, ils arrivent à sortir de l'hippodrome en échappant à la panique, et la vie dans les différents univers va pouvoir reprendre son cours. On retrouve Ralph et Loïs trébuchant à la sortie des chiottes publiques servant de raccourci. Tout va pour le mieux, et Loïs a l'air d'avoir repris du poil de Laura. Un peu d'humour, un peu de légèreté après ça.
Elle est jolie.
Parce qu'elle a retrouvé sa culotte.
Non, je crois qu'il y a...
Il y a quelqu'un de bloqué dedans, de toute façon.
Je crois pas que Ralph, en revenant, lui dit, tiens, je te la rends.
Visiblement, Émilie en a marre qu'on parle de cette culotte, elle s'est barrée.
Ouais.
Elle vient de se lever, de se barrer.
C'est pas grave, on l'entendra sur sa piste, tout ce qu'elle fait.
Cloto et la Chaisis les rejoignent. Ralph éprouve maintenant de la pitié pour eux. En dépit de leur pouvoir et leur aura éclatante, leur vie a l'air bien grise. Il leur demande alors si le garçon est en sécurité. Cloto lui répond que oui, et que sa mort dans 18 ans sauvera la vie de deux personnes, dont une est indispensable à la balance de l'intentionnel et l'aléatoire.
putain, on sait déjà qu'il va crever, quoi.
Ah, mais là, c'est dans un autre livre. C'est encore mieux.
T'imagines, la préparation de paiement, c'est même pas... Oh là là, mais il ne se reverrait jamais avant la fin du livre. Mais alors là, c'est avant la fin du prochain.
Putain.
Ah, je savais que ça te plairait. Ils se quittent finalement sur une poignée de main. Une pratique inconnue des docs, ils sont surpris. Et la promesse de ne pas se revoir trop vite. Nos deux compères, libres et fatigués, rentrent chez eux à pied. Croisent leurs vieux amis au parc et se dépêchent un peu, ne sachant pas trop expliquer leur rajeunissement. Sur le trajet, Ralph remarque l'absence de la bague d'Ed qui a disparu. Il retrouve aussi la photo d'Hélène et Nathalie qui doivent maintenant être saines et sauves. Arrivé chez Loïs, c'est l'heure de la douche et du gros dodo bien mérité après tout ce temps. Après quelques bonnes nuits de sommeil, les auras et la capacité à blinker disparaissent. Tout paraît irréel sauf la cicatrice qui reste sur le bras de Ralph. Épilogue, le temps des heures comptées. Loïs et Ralph se marient peu de temps après, accompagnés de leurs amis, et rejoints à la fin par Dorance qui leur offre à nouveau de la poésie et la satisfaction des maîtres du temps. Le même jour, un ivrogne trouve la bague d'aide aux portes des chiottes publiques et, pensant la revendre pour se payer une bouteille, se fait écraser par un bus. L'anneau sera perdu pendant longtemps au fond des écoutes de Derry.
Jusqu'à ce qu'il sera trouvé par quelqu'un qui l'appelle « Mon précieux !»
Mon précieux. Ensuite, on a un petit épilogue sur les diverses personnes. Ralph et Loïs adoptent un chien qu'ils appellent Rosalie. Hélène sort quelque temps avec Lydecker avant de tout lâcher et de changer de bord. Si j'ai bien compris l'image du pins qu'elle arbore à son col par la suite. Je sais plus à quoi il ressemble ce pins. Ralph et Loïs font ensuite leurs adieux à un ami à l'hôpital, ce qui fait presque remonter le souvenir des docks à la surface. Mais bon, ils vécurent tranquillement plusieurs années avant que les choses dégénèrent pour Ralph. Progressivement. Perte de sommeil, le tic-tac qu'il entendait pour Caroline est revenu pour lui-même. Et un soir, il se réveille avec la cicatrice sur son bras brûlante. La promesse doit être tenue et on va bientôt en connaître la teneur. Ralph commence à se souvenir d'Atropos dans ses rêves et les auras reviennent plusieurs mois après. Mais sentant la fin approcher, il ne veut pas se laisser faire. Tout va bien, il est en bonne santé, il commence à retrouver injuste de devoir partir. La capacité de blinker revient et avec elle les souvenirs des docks chauves et de sa promesse. Un jour, Ralph sent que c'est le dernier jour. Il doit sortir, seul. Loïs sent que quelque chose ne va pas. Et elle a fait le lien avec les derniers mois étranges pour Ralph et les petits hommes avec des noms étranges. Prétextant une envie de glace peu crédible, Ralph sort vers le Red Apple. Loïs le rattrape et il lui propose finalement de l'accompagner pour essayer de sauver Nathalie Dipno qui doit mourir aujourd'hui. Loïs ne veut pas perdre Ralph, mais celui-ci est inflexible et ne veut pas renier sa promesse. Il veut donner sa vie pour Nathalie. Tous les événements se mettent en place. Atropos attire la chienne de Ralph et Loïs pour que la petite Nathalie traverse sans faire attention. Ralph voit tout ça, guidé par la voix de Clotos. Tout va se dérouler selon le plan prévu et l'accord scellé avec les puissances supérieures. Loïs tente une dernière fois de le retenir, mais celui-ci blinque très haut et disparaît d'entre ses bras. Il a tout juste le temps de se déplacer vers la voiture et de réapparaître pour sauver Nathalie. Ralph s'en va sur un dernier adieu triste à Loïs. Sur un autre plan, Clotos et Lachesis sont là, et lui serrent la main comme un adieu. Mais en lui serrant la main, il garde une trace de son aura, qu'ils vont offrir à Loïs en consolation, et c'est la fin de notre histoire.
Ta-da !
Ah, c'est beau. Pour une fois qu'il a fait une belle fin.
C'est vrai.
Une bonne c'était fin. Touchant, c'était bien. J'ai bien aimé la partie où t'as Ralph qui se débat un peu parce qu'il sait pas trop pourquoi il a fait une promesse, mais non, il veut pas partir.
Quoique la fin de ça, où il sauve sa femme grâce à la puissance de son vélo, c'était beau aussi. C'était
joli. Il y a d'autres fins qui sont chouettes qu'on n'a pas encore faites. Moi, il y en a une, ma fin préférée, on l'a pas encore faite.
Ta fin préférée, c'est pas la fin des évadés?
Non. Non, parce qu'en plus, ça dépend si tu parles de la fin des évadés ou la fin de la nouvelle qui a inspiré le film, parce que c'est pas la même.
C'est vrai.
Non, même pas. Ouais.
On est arrivé au bout d'Insomnie, ça y est. C'est bon.
On part dormir.
Je suis ravie de pas avoir lu cette deuxième partie parce que je pense que j'aurais beaucoup ragé. Et en plus, j'aurais pleuré à la fin. Donc vraiment, ça m'aurait gavé d'avoir cramé du temps sur cette deuxième partie. Je suis contente de l'avoir découvert via ton résumé.
Bon, bah très bien alors.
Voilà.
Donc c'était un bon résumé. Merci Grand Poil.
Mais de rien.
Merci Grand Poil.
Merci Grand Poil.
Dorénavant, c'est toi qui feras tous les résumés.
Non.
C'est pas possible.
Quoique.
C'est pas possible.
Oh,
de toute façon, tu dors déjà pas. Donc c'est pas grave.
Ça va t'occuper.
Ouais, mais je regarde des séries télé, j'ai... ça va plus vite.
Oui, non, ça c'est pas... Arrête, du coup, lis. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ?
Non.
Non.
Nope, c'est bon. J'ai okay. tout donné. Je vais boire mais...
Maintenant, c'est Émilie qui va parler pendant 45 minutes de tous les liens entre Insomnie, La Tour Sombre et tout le reste. Je propose à tout le monde ici, tout le monde qui nous écoute, de mettre pause, d'aller faire un petit pipi, de se faire un thé, remplir la gourde, enfin quelque chose.
Non, en vrai, prenez un Doliprane parce qu'il y a, peut-être des, ouais, il y a peut-être des moments où je vais vous perdre parce qu'il y a des moments où je me suis dit je suis en train de me perdre et pourtant je sens qu'il y a une logique derrière. Mais enfin, bref, il y a deux pages, ça va, il y a deux pages.
Allez,
allez, vas-y. C'est parti. Allez.
Jingle.
Donc je répète ce que Aymeric a dit, mais on commence toujours comme ça. Donc Insomnia pour le titre en VO, il est paru aux États-Unis en 94 et en France en 95 chez Albin Michel. C'est le 34e livre publié par King, le 28e roman et le 23e livre sous son propre nom. Donc il est resté 16 semaines, dont 3 à la première place sur la New York Times best-seller list. Et le Publishers Weekly l'a classé à la 5e place des meilleures ventes de livres de fiction aux États-Unis, publié en 94. 5e, hein, c'est pas rien quand même pour un truc où même moi, là, sur la deuxième partie, je me disais, je suis un peu perdue, je comprends pas tout ce qui se passe. Donc l'année suivante, Insomnie a été nommé au prix Lucus du meilleur roman d'horreur et pas roman de fantasy, comme à chaque fois tous les romans de King qui sont au prix Lucus.
On est d'accord que c'est pas du tout un roman d'horreur. On
non
est
plus.
Tous d'accord sur ce sujet.
On okay. est toujours ouais, à côté toujours de la plaque.
Non, mais des fois, on a des débats, tu vois. C'est sur la limite. Mais là, on est d'accord que pas du tout.
Non, le prix Locus, ils sont constamment à côté de la plaque, quoi.
Ouais, ok, d'accord.
Et il termine quand même à la 3e place. Et il a été aussi nommé au prix Bram Stoker du meilleur roman.
Mais, alors désolé de te couper, mais quand
non,
même,
vas-y.
Si ce roman-là a la 3e place d'un prix de livre d'horreur, il parle de quoi, les autres bouquins qui ont pas été sélectionnés, quoi?
Après, faudrait aller voir.
Sans déconner. C'est
des harlequins.
Leur... Enfin, non, mais c'est ça, quel est le... Bon, bref.
Faudrait aller voir. En vrai, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui a fait 1 et 2. Ouais.
Leur logique. Et surtout, qu'est-ce qui a fait 4? Qu'est-ce qui a encore moins de l'horreur que ce bouquin et qui concourait aussi?
Donc ce bouquin, il est dédié à Tabby, sa femme, et à Al Cooper. Et Al Cooper, c'est un musicien pro qui l'a accompagné dans les tournées de son groupe de rock, les Rock Bottom Reminders. Pour la faire courte, les Rock Bottom Reminders, c'est un groupe qu'il a avec, en fait, c'est un groupe d'auteurs et d'autrices où ils sont tous plus ou moins bons en musique et en chant, et où là, ils en font plus trop, mais ils s'amusent à faire des petites tournées, voilà. Alors, j'ai pas d'éléments pour la partie genèse, mais comme vous allez le voir avec les connexions, ce roman il s'inscrit tellement dans ses autres œuvres que le contexte seul, c'est un peu comme une genèse. Donc, les connexions. Je commence par les connexions avec La Tour Sombre. On le disait à l'épisode précédent, sur la première partie, si on lit Insomnie, c'est pas du hasard, c'est parce que c'est un des romans de King les plus liés à La Tour Sombre qu'on est en train de lire. La Tour Sombre, là, on en est, on a fait les 6 premiers tomes. Les connexions avec La Tour, elles se font notamment avec la présence du roi cramoisi, qui ici est traduit en roi pourpre, alors que Aymeric nous avait confirmé que c'était bien dans les deux versions, que ce soit La Tour Sombre ou Insomnie, qui en VO, c'est la même chose.
King.
Tout à fait. Et donc ce roi, c'est l'antagoniste principal de Roland dans La Tour Sombre. La présence de Patrick Danville, c'est aussi un fort lien avec La Tour Sombre, même s'il y a des différences entre son rôle dans Insomnie et son rôle dans La Tour Sombre. Ça s'explique, mais on n'a pas encore lu le tome 7, où ça se détaille un petit peu, donc je peux pas développer. Mais si vous avez lu le tome 7 et que ça vous intéresse, dans le dossier multiverse sur stephenkingfrance.fr, j'explique un peu de quoi ça s'agit. Et en tout cas, on peut quand même préciser que Patrick Danville, il a des visions de Roland, et il rêve aussi du roi cramoisi et de la tour sombre, et il fait des dessins des trois. Ed Dipno n'est autre que un parent proche d'Aaron Dipno. Alors selon les sources, c'est soit un cousin, soit son fils. C'est pas très très clair. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Je suis même pas sûr que King lui-même il soit pas planté de version d'un bouquin à un autre. Et Aaron Dipno, c'est un membre de la Ted Corporation avec Kelvin Tower.
On connaît pas trop la Ted Corporation.
Ça, on a commencé non, quand même.
On sait pas ce que c'est. Jamais entendu parler.
Je l'ai dit au moment du résumé de la première partie, mais pour moi, Suzanne Day, qui a les mêmes initiales que Suzanne Delgado, qui parle d'une comptine qui a été chantée par Ed Dipno, chez moi, ça crie référence à la Tour Sombre. Aussi, à un moment donné, dans le roman, il est dit qu'un homme nommé Roland s'est retourné dans son sommeil alors qu'il se trouvait dans un désert. Donc, obvious. Il y a aussi plusieurs mentions ou discussions à propos de K et de K-tête. On nous parle aussi d'un être bienveillant appelé l'homme vert, dont la couleur et l'énergie impliquent qu'il peut être connecté à la tortue divine, étant Mathurin, ou à l'entité Gan, qui figurent toutes deux dans le cycle de la Tour Sombre. Et aussi dans ça, mais ça on y viendra plus tard. Et chez Atropos, et ça j'ai pas fait attention si tu l'avais relevé ou pas, il y a un saxophone avec le nom de Jack gravé dessus.
Il joue du saxo, Jack ?
Ils le disent pas dans le roman.
Je suis pas sûre qu'il joue du saxo, mais il y a en tout cas il y a le nom de Jack chez Atropos.
Mais il y a que Jack ou il y a Jack, son nom de famille j'ai oublié.
Non, il y a que Jack. Et que le prénom.
Là... Ouais, mais c'est Stephen King, c'est potentiellement le chapeau des prénoms.
Bon, peut-être. Bon. Je vais aller vérifier.
C'est possible.
Je vais vérifier parce que ça me. Je suis étonné de pas l'avoir vu ça.
La suite de mes connexions, la liste des connexions avec Derry, parce que plusieurs sont importantes. Donc Ralph, il habite à Derry. On le sait, c'est une ville fictive de King qui est très connue dans son multivers et qui est où il y a beaucoup d'histoires capitales qui se passent entièrement là. Puisqu'on a adhéré, on y croise le bibliothécaire Mike Hanlon, qui est un des 7 membres du club des RAT dans ça. On nous parle aussi de Ben Anscombe, qui est un autre membre du club des RAT, qui lui devient en effet architecte, puisqu'il est évoqué comme architecte du centre municipal. À un moment donné, Ralph se souvient du meurtre d'Adrian Mullen, qui est un homosexuel tué à Derry au début du roman ça.
Début du part 2 du film de 2020.
Ouais.
Du coup, oui, effectivement, il y a le saxo avec Jake. Ça m'a pas, je sais pas, en plus, c'est marqué Jake en gras, en
ouais,
gros.
Ouais.
Il a fait le
Jake gravé en strass dessus.
Ouais, est-ce que tu viendrais pas de faire un peu de mansplaining, grand poil?
Non, j'étais étonné de pas l'avoir vu, donc je vérifiais le truc et comment c'était écrit pour que ça me sorte des yeux.
Je continue. Je suis contente d'avoir raison parce que je suis pas à l'abri de me planter quand même.
C'est sûr, j'ai pas dit que t'avais pas raison, j'ai dit que je m'en souviens.
Non, mais je te dis, en plus, je suis vraiment pas à l'abri de me planter sur des trucs, tu vois, il y a tellement de références que soit il y en a une que je relève mal ou il y en a une, enfin, vu que je les vérifie pas toutes, tu vois, j'aurais pu me planter.
Parce que ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle écrit toutes les références de tête depuis la dernière fois qu'elle a lu le bouquin.
Alors là, respect.
Et ça, c'est très,
respect
c'est
total.
Très fort.
Le nom de Oscar Butch Bowers est évoqué et il s'agit du père d'Henry Bowers, qui est lui aussi un personnage de ça. On nous mentionne, ça, Julien l'a dit, une tempête ou des inondations qui ont saccagé une grande partie de Derry et s'il s'agit des événements qui sont provoqués dans la ville au moment où le club des ratés réussit à battre Gripsou dans ça. Autre référence à ça, on passe par Nebole Street à un moment donné, c'est là où il y a la maison de Gripsou. Mais aussi, pour finir sur Derry, Ralph lui-même, il apparaît dans un autre roman de King qui se passe aussi à Derry, on le croise dans Sagdos.
Qu'on n'a pas encore fait,
en effet.
Il y a aucune ref dans 22-11-63, parce que... Ah mais non, mais ouais, bah, il y passe du coup en 57 ou 58.
Il passe bien avant.
Si, juste il croise. Ouais, mais en fait, il y a des refs avec ça, mais pas. Bah, du coup, c'est normal qu'il n'y ait pas de ref avec Insomnie. Ok.
Oui, parce qu'ils sont encore jeunes, alors que là, ils sont adultes.
Ouais.
Tu vois, c'est 27 ans.
Non,
il passe une vingtaine d'années avant les événements d'Insomnie.
Non, puisque Insomnie, ça se passe en 90, et le héros de 22-63, il passe en 50... Avant 63, du coup. Il passe en 57, je crois, ou un truc comme ça.
Oui, il passe à chaque fois plusieurs années pour arriver en 63, je me souviens plus de la date exacte.
Oui, c'est vrai.
Il y arrive 4 ou 5 ans avant, ouais.
Donc maintenant que je vous ai parlé de la tour sombre et de Derry, je dois vous partager une théorie de fan qui découle de ces deux connexions majeures.
Ah.
Et en vrai, qui est une théorie assez logique puisqu'on vous l'avez eu un peu tout seul. Mais je vais récapituler. Le roi cramoisi, il partage plusieurs ressemblances avec Gripsou. Donc les deux sont métamorphes, les deux ont la capacité de prendre la forme des peurs les plus profondes, et tous les deux, ils sont originaires d'un vide cosmique infini entre les mondes, connu dans la littérature de King sous le nom de Macroverse, et dans le cycle de la Tour Sombre, c'est plutôt ce qu'on appelle l'espace Badash, qui serait aussi, du côté de ça, l'espace d'où vient Gripsou, c'est-à-dire les lueurs mortes ou les lumières mortes, selon les traductions. Aussi dans Insomnie, le roi cramoisi, il mentionne à Ralph, et là peut-être que j'ai pas tout à fait la bonne citation parce que moi je l'ai retrouvée en anglais, il dit « Je peux être ce que je veux, vous le savez peut-être pas, mais le changement de forme est une coutume séculaire à Derry ». Donc c'est un clin d'œil à ce qui se passe dans ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, la théorie principale chez les fans, c'est que le roi cramoisi et ça sont une même entité. Ce qui a jamais été confirmé ni démenti par King, donc on est vraiment tout seul avec cette théorie. Après, moi, je me dis que c'est pas forcément la même entité, c'est peut-être juste deux entités qui viennent du même monde. Après, quand on sait que il y a une tortue d'un côté et son antagoniste de l'autre, a priori, il peut y avoir qu'un seul méchant en face de Mathurin ou de Gan, selon comment on veut l'appeler. Donc peut-être le roi cramoisi serait ça.
J'ai une théorie de fan.
Ouais, je t'en prie.
La drogue. En fait, King ne se souvient pas qu'il a écrit quasiment la même chose dans les deux romans. Et quand il a lu la théorie des fans, il s'est dit « Oh putain, merde, j'avais déjà eu l'idée !»
Mais Pennywise n'est pas censé revenir tous les 27 ans.
Si, pour se nourrir, ouais. Dans cette version, en tout cas sur... En fait, Pennywise, on peut supposer qu'il fait un peu comme Randall, et qui va se promener entre les différentes versions d'univers pour aller un peu chercher ce qu'il veut au moment où il veut, tu vois. Si on part de ce principe-là que on peut switcher en passant par les espaces Vadash, qui est quand même là où est Pennywise la plupart du temps, en fait, ça veut dire qu'il vient bouffer un truc tous les... Enfin, c'est son casse-croûte tous les 27 ans. On dit qu'il hiberne, mais en soi, on sait pas s'il hiberne vraiment. Ça se trouve, il va se promener dans d'autres mondes en attendant et faire chier, notamment... Ralph
et Héloïse.
Ouais, et Roland, et voilà.
Ok.
Sinon, alors pour le reste des connexions, parce qu'il y a quand même d'autres connexions, Loïs, elle doit se rendre à une partie de carte à Ludlow. C'est la ville dans laquelle se déroule le cimetière. D'ailleurs, là-bas, chez Atropos, il y a la basket qu'on évoque comme la basket d'un enfant renversé par un camion. Bah, il s'agit de la chaussure de Gage Creed dans Cimetière. L'histoire, elle mentionne à plusieurs reprises en Serial Killer, et en fait, on parle de Raymond Andrew Joubert, qui est un personnage du roman de Jesse. Dans Rose Meadow, dont on a déjà parlé parce qu'il est publié juste après, dans l'établissement Filles et Sœurs, on trouve une photo de la défunte Susan Day. Et dans Sac d'Os, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, en plus de retrouver Ralph, on retrouve Joe Plusage, qui est un autre personnage d'Insomnie, ce qui est logique, puisque de toute façon, tout se passe à Derry. Voilà, donc c'est un livre plein de connexions, et en fait, après, les connexions chez King, on en fait un peu ce qu'on veut, quoi. Soit on se dit c'est parce que ça l'amuse, ou soit il a réussi à construire quelque chose avec où tout le monde trouve pas forcément une logique ou pas forcément la même logique. Je trouve que c'est pas toujours très clair, mais ça a le mérite d'exister et il fallait laisser de quoi.
Merci, Émilie. Moi, je trouve que c'était très clair.
Ah, merci.
En tout cas.
Tout à fait.
Et intéressant. Tout à fait. Absolument. Yeah. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, très cher camarade ?
Non.
Non.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler des adaptations ?
Il n'y en a pas.
Tu t'en charges.
Voilà.
Facile.
Il n'y en a pas, il n'y a même pas eu de projet, quoi. Donc, il n'y a rien du tout. Le truc est en dehors des radars des adaptations, mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire de ça?
Je pense que si tu l'adaptes pas dans les années 60 avec les hippies partout.
C'est ce que j'allais dire.
L'ambiance
ça, c'est...
full drogue, ça passe pas très bien.
Tu pourrais en faire un comic sans.
En ayant
vrai,
mis la virgule.
Ouais.
Ouais, mais tu peux en faire un comic, je pense. Comme à peu près n'importe quel roman, hein, mais...
Ou un nanar assumé.
Ouais.
Pourquoi pas. Peut-être il y a eu des Dollar Babies dessus.
Peut-être.
Je sais plus. Je sais qu'il y a la liste quelque part, mais les Dollar Babies, si vous ne savez pas ce que c'est, il y a un épisode de la saison 1 de La Réponse D qui en parle. Je vous invite à aller écouter ça.
La Réponse D, un podcast du label Podcut.
Absolument. Deux saisons sont sorties. Vous allez apprendre plein de trucs. Allez écouter.
Bien joué. C'était la bonne réponse.
Du coup, on écoute la théorie de Hurd et qu'on écoutera
alors,
après.
Ouais.
C'est ça.
Dans à peu près toutes les mythologies, on retrouve cette notion de destin, symbolisée par trois sœurs. Ici, les moires des Grecs, Clotho, Lachésis et Atropos. Bien évidemment, cela m'a particulièrement interpellée, car Hurd est un équivalent dans la mythologie scandinave avec ses sœurs, Verdandi et Skuld. Comme les explications et les origines des mythologies sont souvent peu claires à imaginer, partons, sans honte, nous aussi, sur une interprétation. Faisons autrement pour une fois. Je vous propose de faire la théorie à l'envers. L'idée de fin qui pourrait expliquer tout le reste. Car nous l'avons vu, le temps est relatif entre les différents paliers de réalité et les mondes parallèles. Pour certaines entités, il est un concept impossible à comprendre. Plus nous montons dans ces réalités, plus les notions de temps et d'espace que nous connaissons s'effacent. Et selon cette histoire, très haut dans cette représentation en forme de tour, peut-être même en train de faire la nouba sur le toit tout droit déposé par un hélico, le roi pourpre prépare ses plans. Son but était d'éliminer le garçon important dans la quête des mondes. Son but était d'éliminer le garçon important dans la quête des mondes, que nous ignorons encore pour l'instant, car nous le saurons dans les prochains épisodes de la saga de la Tour Sombre. Mais, si vous ne connaissez pas la dite saga, sachez simplement qu'il est le futur homme important à abattre. Comme si l'on vous demandait de remonter le temps pour tuer ou épargner des humains qui ont changé l'avenir de l'humanité. Il a ainsi pris sous son aile et sa noirceur Ed d'Hypno pour qu'il s'en charge. Sauf que celui-ci ne supporta pas cette manipulation et péta un câble. Il battait sa femme, devenait violent et envisagea de faire le kamikaze. Tout cela en gardant une partie de son esprit encore là. Les docteurs Shaw furent avertis que le destin d'Hypno avait été modifié. Car pour chaque être, Clotho tisse un fil de destin, Lachésis le déroule et Atropos le coupe. Ils décidèrent d'envoyer Atropos couper le fil du destin d'Hypno pour contrecarrer cette erreur survenue par une identité supérieure à la leur. Malheureusement, la mission d'Atropos échoua et il devint fou lui aussi, ne reconnaissant plus son rôle de coupeur de destinée. Ses actions étaient devenues complètement aléatoires. Clotho et Lachésis décidèrent de demander de l'aide au niveau inférieur pour empêcher le meurtre du garçon et choisir Ralph et Loïs. Lachésis déroula leur fil plus lentement pour que leur sommeil diminue. Moins ils dormaient, plus la notion de temps leur échappait et leur permettait de se confondre dans les paliers de réalité. C'est ainsi que le pire fut évité, du moins pour ce qu'on l'en sache, en empêchant la mort du garçon et libérant d'Hypno. En échange, Clotho et Lachésis acceptèrent d'utiliser le fil de Ralph pour que le destin de Nathalie ne s'arrête pas comme prévu. Pour ma part, je crois qu'Atropos avait fait preuve de compassion envers Ralph, au milieu de sa folie, pour le remercier. Le fil du destin de Ralph se termine ici, mais tant de questions demeurent encore. Je ne sais pas vous, mais j'ai hâte de savoir ce qu'il se cache dans cette tour et derrière ce roi pourpre.
C'était la théorie de Hurd.
Voilà,
Vous avez entendu la théorie de Hurd que nous n'avons pas entendue, parce que comme on vous a dit, là, en ce moment, elle est pas trop dispo, mais elle voulait absolument en faire une, donc elle nous l'enverra plus tard. Et puis
non, on la veut, ouais. Moi, je veux. On je veux cette théorie là, sûr. Ouais.
Non, mais
est-ce
moi,
qu'on
je
ferait pas un live react de la théorie de Hurd?
T'es ouf.
Pourquoi pas. On le découvrira ensemble sur Twitch, on verra. Non, mais vu l'histoire, en tout cas vu la manière, en fait la manière dont Grandpoil en tout cas en a parlé, parce que je peux pas juger par rapport à la réalité du texte, on dirait déjà une théorie what the fuck. Donc quelle va être la théorie encore plus what the fuck de Urd? T'as la pression qu'elle a sur les épaules. Heureusement qu'elle n'entendra pas cette discussion avant de l'avoir écrit.
Donc c'est parfait. Bon.
Et bien du coup, je vous propose maintenant de passer aux questions des auditeurs. Allez, c'est moi qui... J'ai pas beaucoup parlé, c'est moi qui m'en charge. Oui !
Ok.
Sur le Discord de Podcut, David D. Ward, qui avait participé à un épisode avec nous sur...
Celui qui garde le verre.
Voilà, celui qui garde le verre, merci. En août ou septembre dernier, allez l'écouter. Qui nous demande, qu'est-ce que, pour vous, un bon roman de Stéphane Roy, et celui-ci en est-il un ? Entre parenthèses, j'entends déjà Pomme dire, je n'ai pas la réponse, mais je peux dire que c'est, je peux dire ce qu'est un mauvais roman de Steve Wu, en frappant sur Joyland et Sleeping Beauties à coup de masse.
Non, c'est pas compliqué. C'est pas un bon roman.
J'ai pas la réponse non plus, mais moi j'ai bien aimé, je trouve que c'est un bon roman.
Moi je l'ai pas fini, parce qu'il me saoulait, donc je peux pas dire que c'était un bon roman.
Je l'avais dit quand, au premier épisode, mais faire le résumé, ça a été une torture parce que pour pouvoir le faire correctement, ça me prenait un peu de temps et que j'avais qu'une envie, c'était d'avancer dans l'histoire. Je voulais avancer, je voulais en savoir plus et... Donc oui, moi j'étais accroché du début à la fin et...
Alors un bon roman de Stéphane Roy, je sais pas si j'en ai lu assez, quoique je commence à en avoir quelques-uns quand même maintenant à mon actif. Dire quel est le roman ultime, mais il y a des romans que j'ai adorés, et en général, ils ont comme point commun de pas faire 1500 pages, et d'avoir des fins ouvertes. J'aime beaucoup les fins ouvertes, okay. Les fins où il n'y a pas de fin, en fait. Comment il s'appelle? Et j'adore les Backman. On a fait 3 Backman, et ils font partie de mes bouquins préférés. Donc, tout auteur confondu. Un bon bouquin de Stephen King, c'est un bouquin de Backman.
Pas forcément. Non, mais celui-là, il est trop long pour être un bon bouquin, clairement.
Il justifie pas cette longueur.
Non, il n'aura pas ce titre. Pas chez nous. Désolé, grand poil.
Mike, tu as quelque chose à rajouter ?
Oui, un bon roman de Stephen King, c'est un roman de Stephen King qui n'a pas de diarescription. Celui-là a des diarescriptions.
Celui-là, il a repeint tes chiottes, quoi.
Ah, c'est violent sur cette fin de...
Pardon pour cette violence, chers auditeurs. Auditeuristes.
On n'était pas préparés non plus.
Passons à la suite. Aline B, toujours sur le Discord de Podcut. Venez sur le Discord de Podcut. Nous demande, c'est une seule question. Ah oui, alors elle avait fait une question en 3 questions, du coup elle l'a refait en une seule question. Est-ce que vous pensez que Stephen King aime faire du mal à ses personnages ou s'il fait ça pour exorciser ses démons?
Ben l'un, enfin les deux sont compatibles, hein. Il pourrait aimer leur faire du mal et en plus ça exorcise ses démons.
Oui,
c'est pas sûr.
Des fois, t'as un peu l'impression aussi qu'il tranche un peu au hasard, genre. Alors, qui se fait longtemps que j'ai pas tué quelqu'un? Bill McBurn.
Je pense surtout qu'il y a un truc, de toute façon, le fond de ces histoires aussi, c'est de montrer que c'est injuste, c'est fatal, c'est un peu gratuit, tu vois, que la vie est comme ça et que donc, pourquoi lui, il le ferait pas non plus, tu vois. Je pense que c'est surtout ça, en fait. T'es jamais autant proche de la réalité que en faisant des destins qui sont injustes.
Mais il aime pas faire du mal à ses persos.
Non, en plus, je pense pas, quoi. Il aime bien faire du mal pour les faire souffrir.
Atropos, il prend bien cher dans sa...
Oui, il les fait payer,
bien
ouais.
cher. Je pense que...
Ça, on peut dire ça, ouais.
Il aime bien punir ses méchants. Mais souvent, ses méchants ne sont pas punis. Et ça aussi, ça fait partie de des trucs qui sont bien dans ce bouquin, c'est que... La vie est injuste envers les gentils, mais parfois elle est trop gentille avec les méchants.
C'est beau ce que tu dis, Aymeric. Question suivante. Juju Pink, toujours sur le Discord de Podcut, nous dit bonsoir. Déjà, c'est très poli. Bonsoir, Juju Pink.
Bonsoir.
Quelle serait la couleur de votre aura en ce moment? Prenez soin de vous. Bah alors je sais pas parce que j'ai pas suivi les codes couleurs.
Il y en a pas beaucoup qui sont décrits à part la maladie, le meurtre et le blanc quand tout va bien.
Bah blanc alors.
Bah blanc ouais.
Le rouge en général, enfin le rouge c'est la colère je crois.
Ça, ouais et puis la version contaminée avec des petites ronces dans l'aura, c'est pas bon non plus.
C'est quoi la couleur de l'insomnie?
C'est la maladie plutôt.
Ah, si, là, il y a la maladie.
Maladie,
y a
c'est
le
vert,
noir,
non?
Il y a le vert maladif, il y a du noir quand t'es pas loin de crever.
Et bleu, c'est le meurtre.
Ouais.
Vert et bleu, ça fait jaune, c'est ça? Non?
Oui.
Quoi?
Non, c'est bleu et jaune qui font vert.
Bleu et jaune, c'est vert et bleu, ça fait.
Moi, je dis oui.
Évidemment. C'est rouge et vert qui font jaune.
Non, rouge et vert, ça fait violet. Non, c'est rouge et bleu qui font violet.
Rouge et vert, quand c'est les couleurs de la lumière qui se mélangent, ça fait jaune.
Allez, ah ouais, moi je voyais la peinture, quoi, la gouache. La gouache quand on était gouache.
je pensais comme le RVB sur les écrans télé.
Oui, ok.
Apprenez les couleurs avec le roi Steven.
Quoi ça?
Putain.
Babou a posé une question. Babou, il vient juste. Il ou elle, d'ailleurs. C'est vrai que je ne sais pas. J'ai présumé, mais je ne sais pas. Vient de.
Il dit heureux,
hein,
donc.
Il dit heureux.
Ah ouais. Oui, t'as raison, donc c'est bon. Non, mais c'est ça. C'est pas par hasard que j'ai dit il. Il vient donc de rejoindre le Discord de Podcut, donc faites comme lui, rejoignez le Discord de Podcut. Et donc il dit bonjour, heureux de poser ma première question. J'aime beaucoup ce podcast que j'ai découvert récemment. Mais ce que je préfère, c'est quand personne n'est d'accord, ça crée la Discord. Haha, petite blagounette. À quand un épisode du roi Steven avec autant de joutes verbales que le fléau ou Joyland?
J'ai pas envie qu'on
c'est
se
pas
mette.
Le sujet, mais j'ai beaucoup aimé Joyland pour ce que vous lui donnez, mais je suis en total accord avec Pomme. Ah, j'ai failli arrêter de le lire plusieurs fois pour ce qu'elle lui reproche. Pareil pour le fléau, il est d'accord avec moi. Et par contre, il est Team Larry. Bon, ça a discuté, c'est discutable, mais...
Non.
Alors, c'est quand la prochaine fois? Ben, en fait, on sait pas.
J'aime pas les
jeux
de
verbe.
C'est
vrai que depuis qu'on est plutôt d'accord avec Julien, on a remarqué qu'il y a une pandémie au niveau mondial.
Ah, moi, je pense qu'en vrai, il y aura une discussion, et c'est même pas par rapport à ce qui peut s'y passer.
À la
pas,
fin de la tour,
que...
à la fin du tome 7.
Ben oui, on y aura passé tellement de temps qu'à un moment donné, va y avoir débat sur. Enfin, il y a pas forcément de débat, mais on.
Non, par contre, ça peut bien se passer, comme il peut y avoir un gros rage quit à la fin.
Hein. Il parle de joute verbale, tu vois, pas juste de.
Oui, des choses.
Le fléau et Joyland, on s'était rentré dedans. Ben, écoute, Babou, va écouter Marche ou crève, si ça te manque, ce genre de discussion.
Je pense que la ligne verte, on sera pas d'accord.
Ah ouais?
On va avoir des points de vue. Il va y avoir débat. C'est bien.
Lu,
c'est bien.
Je l'ai pas lu, on dit Pomme.
Je l'ai lu. Si, je l'ai déjà lu.
Ah, bah voilà.
Pourquoi?
Parce que t'as dit, je l'ai pas vu.
Ah non, je voulais dire, je l'ai lu. Je l'ai lu, je l'ai vu. Non, je l'ai déjà lu, déjà vu. Et je me souviens juste que j'ai pleuré, mais je me souviens pas tellement de l'histoire. Très peu. Bref. Bon, ben, on verra. Rendez-vous. Voilà. Va écouter Marche ou crève en attendant.
Ça
et
risque d'arriver
la
plutôt
prochaine
assez,
fois,
assez vite, ouais.
Johnny Bigood, qui vient aussi, je crois, de rejoindre le Discord, dit « Bonjour, j'ai trop hâte d'écouter la suite. Par contre, je suis un peu tristouné, car je n'ai... » Ah oui, non, bah, alors, il n'a pas Twitter, il peut pas participer au jeu. Je sais pourquoi, c'est pas une question. Je sais pourquoi j'ai mis son commentaire. C'est pour rappeler que quand on fait... dès qu'on fait un bouquin qui est édité au livre de poche, on fait un concours pour le faire gagner. On en fait gagner un sur Instagram, un sur Twitter... un sur Facebook, et vous pouvez participer sur un des réseaux, deux ou trois, comme vous voulez, donc voilà, n'hésitez pas. Si, mais quand même un PS, j'ai hâte de savoir dans quelle mesure ce livre nous en apprend plus sur la Tour Sombre, et pourquoi l'avoir fait avant le dernier tome de la Tour. J'imagine que je devrais attendre le dernier tome pour comprendre. Bah non, je pense qu'on en a beaucoup dit déjà.
En fait, ça change pas grand-chose qu'on le mette maintenant ou après, ça change pas grand-chose.
Okay.
Donc,
okay.
Tu vois, le seul truc qu'il y a, c'est un détail sur Patrick Danville, et c'est pas non plus sur les 900 pages du tome 7, c'est vraiment un détail, quoi.
Okay. Sur Twitter, Cœur de Fille nous dit « Bonjour, bonsoir à tous. Quand
Bonsoir.
J'étais ado, il existait des bagues qui changeaient de couleur en fonction de ton humeur, soi-disant. Ça me fait penser aux auras. Hein. Est-ce que certains d'entre nous en ont eu ?
Oui.
Non.
Moi, je n'ai pas souvenir. Nope.
Ouais, c'est ça. J'avais la version bague, mais il y a aussi des bracelets, des montres, des. Okay. J'avais la bague, ouais.
Moi, j'avais des cartes à collectionner qui changeaient de couleur, mais je crois que ça n'a rien à voir.
C'est juste un truc thermique, c'est le même principe que les thermomètres en bande qu'on mettait sur le front quand on était enfant.
On n'est pas là pour faire l'apologie de la lithographie.
Non, mais c'était juste pour pouvoir préciser que il y a des youtubeurs de bricolage qui ont fait un siège de toilette. avec une peinture qui change de couleur avec la température.
Mais comme ça, tu sais s'il a été utilisé récemment ou pas.
C'est ça.
S'il est encore chaud quand tu vas poser tes fesses dessus.
Alors. Comme d'habitude, vous êtes géniaux, ne changez rien.
Pas de problème.
Merci. De toute façon, PS, je réécoutais l'épisode 1 de La Tour Sombre et quelqu'un a fait une blague sur le fait que vous alliez finir dans 3 ans. Maintenant, je trouve cette blague particulièrement bonne.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'en le disant rigolant à l'époque, mais en vrai, ça y est, on attaque la troisième année, là, non?
Surtout qu'on a, il y a des trucs qu'on a repoussés. On s'est dit,
On a commencé. Je crois que le premier épisode est sorti en février 2020, je pense.
Donc,
fait 2 ans. Donc, ça fait 2 ans.
Ça fait 2 ans.
Ouais, mais on va rentrer dans la troisième année.
On rentre dans la troisième année.
Là, on a attaqué la troisième année.
Petite section.
Cet épisode. C'est ça. Cet épisode, il sort en mars. Avril et mai, on a Cœur perdu en Atlantide. Et peut-être qu'en juin, on fera peut-être une nouvelle pour souffler un peu. C'est pas prévu, mais c'est pas impossible, nous connaissant. Donc, ce qui fait que le tome 7 de La Tour Sombre, au plus tôt, c'est juin et juillet. Donc, on sera quand même à 2 bonnes années et demie.
Ouais, easy.
Au minimum, quoi. Bref. Lors du Sud nous dit « Hello l'équipe, à ce stade de votre lecture, quel rôle pensez-vous que la personne sauvée va avoir dans la tour sombre ? Bon enregistrement. » Bah, Emily vient de dire que c'est un détail, donc du coup, je me dis
non,
que...
Non, elle
rien,
a dit que ce qu'on a eu dans Insomnie, c'est un détail.
Ah, et surtout, j'ai dit qu'il y a des raisons pour les différences entre ce qui lui arrive dans Insomnie et ce qu'on sait dans la tour sombre, mais que ça s'explique dans la tour sombre. Donc tu peux faire des théories si tu veux.
Franchement,
je sais pas,
ce
que je sais, c'est qu'il va mourir
pages.
À 18 ans, ou dans 18 ans. Après, non, j'ai pas du tout de... Bah, vous, peut-être...
Un rôle minime.
Ceux qui n'ont pas lu, évidemment.
Parce que sinon, le mec, ça serait le héros depuis 6 tomes, quoi.
Tu crois que c'est un rôle minime ?
Ouais.
Je sais pas.
Non, mais si ça se trouve, en fait, c'est Roland.
Attends, est-ce que Roland de Guilette, c'est pas un anagramme de Patrick Bourdieu ?
Si tu changes les lettres,
mais bon
ça sort, passe.
Mais bien sûr.
Roland Deschamps.
Parce qu'en fait, Patrick Danville, c'est le fils de Roland et Susanna. Comment il s'appelle déjà ? Mordred. Est-ce que Mordred, c'est un anagramme de Patrick Danville ?
Non, toujours pas. Arrête, tu te fais du mal.
Après,
non,
je suis content
parce que...
Vraiment toujours rien de la fin. J'ai réussi à tout éviter, les balles.
Ouais, moi aussi.
Non, toi, t'avais lu un... Ah non, c'est le spoiler que t'as lu et on l'a passé.
C'était
sur le tome
6.
Okay.
Je dis rien parce que moi, j'ai passé le quart du tome 7 et tu vois, j'avais oublié que Mordred, on en entendait parler déjà dès la fin du tome 6. Donc moi, là, je ne parle plus de la tour sombre tant qu'on ne l'avait pas lu. J'ai trop peur de lâcher les trucs.
Ben, surtout que Mordred, pour moi, à la fin du tome 6, potentiellement, il survit pas. Donc du coup, maintenant, on sait qu'il survit. Puisqu'on
en
parle dans le tome 7.
Comment ça, il survit pas à la fin du tome 6?
Pour moi, le tome 6, il est fou.
C'est pas parce que on en parle dans le tome 7 qu'il survit forcément, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Ah non, j'ai rien spoilé.
Bon, ça va.
Et puis j'avoue que moi, dans le tome 6, j'ai rien qui me fait penser qu'il survit pas.
Bah non, il a la couche.
Ouais, la couche.
Ouais, mais il me semblait que c'était tellement chaotique que moi, je m'étais imaginé que.
Ouais, il y a des gens un peu bizarres autour de la table d'accouchement, quoi.
Oui, bah c'est.
Ils ont des masques.
C'est un petit troquet.
C'est ça, New York. Hein.
Voilà, bah.
Je pense que je réécouterai le résumé du tome 6 avant de passer au tome 7. C'est pittoresque. Dr. Quinn, femme médecin. Oh, on a un message de Laurent Soubois.
Je
l'ai vu arriver en cours de route, je l'ai rajouté vite fait.
Ah, il me semblait bien ne pas l'avoir vu. Salut les survivants. Depuis le temps que dure l'émission, quel roman de moi Steven aurait pu vous filer des insomnies tant il est prenant? Et pourquoi le fléau?
Parce que le fléau.
Bah, le fléau. Bah oui.
Moi, le fléau m'a filé des insomnies, mais par manque de temps, en fait. Fallait que je le finisse et j'avais plus le temps.
Moi, c'est ça. C'est ça. Parce que j'ai lu quand j'étais gamin et je voulais plus m'arrêter et je lisais sous ma couverture, sous ma couette avec ma petite lampe poche pour aller au bout.
Ouais, moi, je suis assez d'accord avec le fléau. Après, honnêtement, j'en ai pas relu beaucoup, hein. Enfin, après, sinon, tu mets, bah, c'est facile, hein. Tu mets, différentes saisons et voilà. Mais, enfin, le fléau, quand même, depuis que je l'ai relu, j'ai tendance à le vendre un peu à tout le monde.
Moi, je me souviens avoir passé beaucoup de temps sur, Marche ou crève. L'avoir lu assez rapidement, mais est-ce que ça m'a filé des insomnies pour avancer dans le bouquin? J'ai pas souvenir.
Après, la question, c'est
lu en marchant, tu vois. Ouais, ou aurait pu.
Non, le fléau. Enfin, comme grand poil, hein, le fléau, c'est à la lampe sous la couette, quoi.
Ouais, là, je sais pas, non.
Tout le passage dans le tunnel.
Moi, ça a plus été Sleeping Beauties.
Tellement tu étais accroché par l'histoire et que tu voulais savoir comment ça se finissait.
Tout à fait.
C'était ces angoisses de devoir se dire qu'il fallait continuer à lire.
Non,
c'est
tu l'avais bien
dit. Après,
dans mon souvenir, non ?
Je suis assez d'accord que Sleeping Beauties, même si j'ai pas aimé le bouquin, j'avais quand même envie d'en savoir plus. C'est quand même intriguant tout ce qu'il avait pu développer dedans et je voulais en savoir plus aussi.
Ouais, mais
à la fin,
ce
bon,
qu'ils avaient pu développer dedans.
Alors, Sleeping Beauties est assez long, tu vois, parce que après un livre que j'avais envie de vite lire parce que je voulais savoir où ça allait, Shining, ça a été le cas, quoi. Mais ça se lit vite, donc en deux jours, tu peux vraiment le lire. Shining, c'est au taquet. Ce qui est pas le cas du fléau.
Ouais, mais Shining, bah, c'est chou qu'on l'a fait. J'ai rien dit.
Bon, bref. Voilà.
Je pense qu'il a sa réponse.
Que ta réponse, notre réponse te convient. Facebook, maintenant. Alors, Amandine pose une question, alors qui a déjà été posée plusieurs fois, mais comme elle vient juste de commencer le podcast, d'ailleurs, elle le dit, peut-être que ça a déjà été répondu. Elle est intriguée par ton pseudo grand poil et aussi elle veut savoir ce qu'on aime chez Stephen King. Du coup, elle nous dit mince, ces deux questions, donc répondez à celles que vous voulez.
Non, en plus, si je donne une raison pour mon pseudo, ce sera peut-être pas la même que la dernière fois, alors ça va se voir. Ah.
Quelle fraude!
C'est parce qu'il est grand et qu'il a des poils
dans la main.
Ouais, c'est ça, c'est ce que t'as dit
la dernière
fois.
C'est pour ça que c'est
au singulier. C'est ce que t'as dit la dernière fois, c'est que t'es un feignant et que t'as un poil dans la main.
Oh, c'est faux. Du coup, qu'est-ce que vous aimez chez King?
Qui permet de faire un podcast avec des copains. Ouais.
Que ça se lit,
trouver des copains d'abord,
facilement.
Ouais, enfin, il vous avez combien de temps devant vous?
OK, question suivante.
Amandine,
allez lire les interviews d'Emily. Ouais.
Emily a fait
acheter
plusieurs
les DVD
interviews
où elle est, enfin elle est partout.
Non, c'est marrant parce qu'en plus on me demande pas forcément ce que j'aime chez King, mais plus ce qui m'a fait accrocher, tu vois. Et
alors,
c'est pas tout à fait la même
King
réponse. C'est moi ce qui, moi la bascule. J'étais habituée au Chair de Poule et je pense que j'aimais bien le truc de d'avoir l'impression d'avoir la même patte. Donc j'aimais bien lire le même auteur. La bascule, c'est quand je me suis rendu compte qu'il faisait des connexions entre ses romans. Et après, ce que j'adore chez King, c'est que déjà c'est bien écrit, c'est pas trop pédant. C'est maintenant que je le lis en anglais, j'arrive à retrouver un peu un côté cynique qui est assez difficile à retranscrire dans les traductions. Et surtout, j'aime bien le côté sans tomber dans toutes les descriptions extrêmement visuelles, on sent assez immergé, quoi. C'est, il crée des univers chouettes avec des personnages assez profonds. Et ça, c'est vraiment cool. Et j'aime bien retrouver ça chez lui.
Il a un vrai don pour décrire les choses et notamment la douleur, je trouve. C'est un truc que j'apprécie.
Ouais. Les choses et les gens et les environnements,
quand,
les autres.
2263,
c'est sa grande force,
bien,
quoi. C'est incroyable.
Ouais, non, c'est vrai qu'il a un vrai talent pour les descriptions de personnages et même des fois très courtes en trois phrases, tu sais comment pense un personnage, tu sais comment il va réagir, enfin il arrive à te
c'est
dresser des portraits
plus comme
ça
quand
super
il met,
rapidement.
Quand il décrit le contenu d'une armoire à pharmacie sur 4 pages.
J'allais dire, c'est ça qui est terrible, c'est que en 3 phrases, il peut faire des choses fabuleuses et des fois il utilise 200 pages pour le faire et ça fait chier.
Oui, après c'est la façon dont tu l'abordes, mais oui. Moi je sais que dans mes amis qui lisent beaucoup, qui ont déjà essayé de lire du King, ceux qui n'ont pas accroché, c'est ceux qui trouvaient ça trop lent. Et moi, je crois que je l'avais déjà dit, une amie qui avait pas aimé King parce qu'elle avait trouvé ça trop lent, je crois que c'est du Granger qu'elle avait essayé de me faire lire. Et Granger, j'étais perdue parce que ça allait trop vite. Mais parce que je suis trop habituée à King, j'aime trop ce format-là de, on prend le temps d'installer, il y a un contexte, on visualise vraiment tout et c'est pas, après, il a des phases comme ça où t'es un peu paumé parce qu'il se passe, en deux phrases, t'en as trois qui sont morts et t'as changé deux fois d'univers. Mais ouais, moi, j'aime bien ça.
On aime bien les fins aussi.
Moi, un des trucs que j'aime bien de chez Stephen King, dans la plupart de ses bouquins en tout cas, c'est le côté, j'allais dire, social. Je sais pas si c'est le bon terme, mais il y a jamais aucun bouquin où il n'y a pas... Alors déjà, c'est toujours très ancré dans la période où ça se passe. Et du coup, entre les descriptions et tout ça, tu es dans la période avec lui. Et puis, ou avec les personnages en l'occurrence. Et t'as toujours des petites références, des petites phrases, des petits trucs qui te ramènent à lui, la manière dont il voit le monde, l'Amérique, entre autres, et comment peut-être ça pourrait être, et comment, je sais plus, par des petites phrases, comment les migrants sont mal accueillis, comment le système de santé ça va pas, comment là, par exemple, on parle de du woman care, etc. Et
c'est un témoin de son époque.
C'est un témoin de son époque qui, l'air de rien, donne son avis sur son époque, il fait pas que le décrire. Parce que quand il met une petite phrase, alors j'ai plus en tête dans quel bouquin c'était exactement, mais quand il met une petite phrase sur les migrants, il donne son avis sur ce point-là. Mais il en fait pas 8 chapitres. C'est disséminé comme ça un peu partout. Et ça fait partie des choses que j'aime beaucoup chez lui.
Ce qui est pas simple en plus, parce qu'on est quand même les premiers à relever aussi des fois des enfin, vu qu'il est ancré dans son époque, il a aussi les défauts de son époque, c'est-à-dire des trucs un peu sexistes et tout, mais et c'est ça qui est intéressant aussi à...
Tu sens une évolution aussi et qu'il a travaillé dessus, qu'il en a conscience.
Ouais.
Au fur et à mesure.
Ouais. Mais en effet, ouais, c'est parce qu'il a conscience de tout ce qu'a dit Pomme qu'il a réussi à prendre conscience de ce qui pouvait être problématique dans ses récits.
C'est depuis qu'il nous écoute.
Bah, c'est évident.
Vous avez même pas dit merci, cet enfoiré.
Le truc tout bête, c'est quand je vois des gens qui parlent de Carrie comme étant le bouquin d'horreur, machin. Putain, Carrie, pour moi, l'aspect horreur, c'est une façade que tu grattes à peine et tout tombe, et ça parle. C'est pas du tout une histoire d'horreur, en fait. C'est pas
comme Shining,
ça, l'histoire du bouquin. C'est comme Shining, c'est il y a vraiment un côté social hyper présent. Alors, je sais pas si social c'est le bon mot, mais du coup. On avait fait une interview où la personne qui vous avait interviewé l'avait un peu comparé à Zola d'une certaine manière, et je trouve que oui, il y a un peu de ça. Alors, pas de la même manière, mais il y a un peu de cette idée-là de rendre
dans les longueurs
de son
aussi.
Époque. Dans les longueurs
souvent,
aussi.
Souvent, l'horreur, c'est...
Stephen King,
alors,
c'est le Zola de
notre
époque.
L'horreur, au sens large, c'est une manière de faire des critiques que les gens ne vont pas forcément percevoir, parce que c'est pas... Quand tu vois tous les films de mort-vivant de George Romero, c'est vraiment des grosses critiques sociales derrière, et alors que si tu vas sans faire trop attention... Tu vois juste des gens qui font un cerveau et qui mangent d'autres personnes.
Mais du coup, ouais, King, c'est pas du tout le rôle. Ben, il en avait souffert à une époque, l'auteur de gare dont on s'en fout et de bas étage. Non, je suis sûre que Emily, elle est un peu fière de me voir défendre King.
Non, parce que je ne doute pas que tu aimes ce qu'il fait, c'est juste les trucs que t'aimes pas, t'as une façon de les exprimer qui est surdimensionnée, tu vois. C'est en fait, t'es une personne du sud, tu vis les choses à fond, donc quand tu aimes beaucoup, et quand t'aimes pas beaucoup, tu vois. C'est non, je doute pas qu'il y a des choses que tu aimes et que tu sais apprécier chez King.
Est-ce que
et c'est bien,
c'est-à-dire
que tu souffres pas trop.
Ah, écoute.
Pas tout le temps.
Pas tout le temps. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur cette question?
Non, je pense qu'on est pas mal.
Ok, Pierre Ferré. Je crois que ça faisait un moment qu'il nous avait pas posé de questions, Pierre. Bonsoir à toute l'équipe. Insomnie fait partie des romans de Stephen King que je n'ai pas aimé avec Dreamcatcher et les Tommyknockers. Je l'ai lu avant d'avoir entamé La Tour Sombre. Le fait d'avoir entamé la saga comme les novices, entre guillemets, de l'équipe. Rien de péjoratif dans le terme. Novice, c'est pas péjoratif, on est d'accord.
Je suis sûr que t'as voulu dire double cote.
Ben, c'est des guillemets.
Oui.
Double cote, cote-cote. Permet-il de mieux apprécier Insomnie? Merci d'avance pour vos réponses et merci pour votre podcast qui est toujours un plaisir à écouter. Ma réponse est
non.
Ça ne permet
je
pas
sûr.
De mieux.
Non, ça change pas grand chose. T'as juste le petit. Si tu l'as lu avant, si tu connais la précédente, tu dis oh, il a fait un bon lien. Ça rajoute une petite couche de sel pour donner du goût. Mais sinon, tu le sais pas, ça fait juste le grand méchant de ce livre-là, c'est le roi pour. Bon, bah écoute, vas-y.
Soit.
Sur Instagram.
Et,
bon,
et Dreamcatcher et Tommy Knockers, je nous souhaite d'avance un peu de courage.
C'est méchant d'avoir mis Insomnie avec Dreamcatcher et les Tommy Knockers.
Ouais. Alors, autant les Tommy Knockers, je me souviens que je l'ai lu quand j'étais vraiment très jeune, donc peut-être que je le reverrai différemment en le relisant. Autant Dreamcatcher, je l'ai lu assez vieux. Ça va juste être...
Mais il y a un super film.
Ah oui, il y a un pur film. Allez. Ah oui, oui.
Alors, sur le Discord de Stephen King France, il y a quelqu'un qui a posé la question sur les Tommy Knockers tout à l'heure, justement. Qu'est-ce que vous pensez des Tommy Knockers? Et...
Bah, on aura notre avis quand on le lira.
Non, mais il y a une réponse qui m'a fait peur, en fait.
Ah, je sais laquelle.
Oui. Non, bah, je la retrouve pas, c'est dommage.
Je crois que c'est Minka qui disait que le roman l'a mis mal à l'aise, mais qu'elle avait
bien
relire.
Elle a répondu, c'est ça, Minka a répondu, qui nous écoute, coucou, elle a répondu, c'est trop long, parfois décousu, j'aime beaucoup.
Okay.
Voilà.
Bon courage.
Alors Instagram, Sid971 dit, hello la cour, j'espère que vous avez survécu à la lecture, Pomme a-t-elle vaincu ou fuira-t-elle en prétextant qu'elle a aquaponé aujourd'hui? Non, moi
pas
j'ai
loin,
assumé le fait
loin.
De pas avoir lu. Ouais, j'aurais pu ne pas venir, j'assume complètement.
Non mais c'est la bonne méthode d'assumer quand on lit pas, hein. Sinon on n'est jamais là.
Bon, moi j'ai vaincu, oui, toi surtout. Bon alors moi j'ai vaincu alors qu'il y a 2 mois, rien n'était moins sûr. On dirait un peu ce que tu disais, du coup, Julien, que la première partie...
La fin de son message, ouais. C'est un peu ça. Hein. C'est pendant 500 pages, tu...
Ouais, c'est ça. J'avais tellement lutté que je m'étais arrêtée dans ma lecture pour poster un commentaire très constructif sur le fait que ce bouquin faisait 500 pages de trop. Au final, je me suis réconciliée avec le livre grâce aux 150 dernières pages. Ça fait chier quand même, putain. Et je me suis rappelée pourquoi j'avais un bon souvenir de ce livre. J'ai maintenant hâte de voir les connexions avec la Tour Sombre. Merci, Émilie. Mais je vous repose tout de même la question. Et alors il cite « Long est le chemin du paradis, n'est-ce pas une parfaite définition de ce roman ?» Des cœurs sur vos faces de courtisans et bon courage pour l'enregistrement, hâte de vous écouter, cœur.
Elle
bah, du
cite...
coup, je ne connaîtrai jamais le paradis. Je me suis arrêté avant.
De quoi
bah, ah,
long, long est le chemin du paradis,
oui, non, non, elle a
balance, n'est-ce pas une parfaite définition de ce roman ? Bah, je sais pas, du coup, moi je me suis arrêté en cours.
C'est pas le paradis quoi. Ouais, long est le chemin à Leclerc
c'est
quoi.
Fort. Okay. Oh, allez quand même, je sais pas, chez Whole Food, un truc comme ça, un truc un peu classe.
Chez Dunkin Donuts, voilà. Ça prend un petit donut bien sucré, t'es content. Et le paradis, on va se calmer.
En tout cas, le message est fort sympathique.
Oui.
Merci Sid.
971.
Voilà. On a fait le tour des questions. Est-ce que vous avez des choses à rajouter?
On va pouvoir aller se coucher.
Allez, vivement qu'on fasse
mais
un autre petit livre.
Avant d'aller se coucher, il faut faire la promo du label. Alors, qui s'en occupe?
On a toujours pas fait de pastilleur. Putain, on n'est pas doué. Hein.
Non, on a fait ça sur Dr. Watt parce qu'on avait, on avait la flemme. Mais pas sur le Roi Steven.
Le roi Steven est un lab... Non, ça a mal commencé. Le roi Steven est un podcast du label Podcut. Vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts du label sur le site podcut.studio. Et si vous voulez nous aider, vous n'hésitez pas à participer au petit Patreon, patreon.com/podcut, pour nous donner un petit peu de sous. Hein, on aime bien pour pouvoir derrière
qu'est-ce qu'on
organiser...
aime bien.
Voilà,
quel argument
jour, organiser...
Pourquoi qu'on il faut aime bien l'argent. Voilà.
C'est... Eh, on peut l'avouer. Hein. On a dit qu'on assumait.
Ouais.
Ça permet aussi de...
Là, si tu pouvais ranger les lingots derrière toi, c'est pas très bon chic, bonjour.
C'est un peu... Ils sont un peu en équilibre en plus.
C'est un peu
ça
vulgaire.
Faire du bruit. Et du coup, ben non, c'est aussi qu'on aimerait bien un de ces jours réorganiser des lives. Après, c'est filer du matos, ça paye l'hébergement, plein de petits détails qui sont la vie d'un label.
L'hébergement du flux, pas, on va pas sur la Côte d'Azur. C'est pas cet hébergement-là.
Sauf s'il y a un festival de podcast qui s'y déroule.
Sauf s'il y a un festival de podcast.
Donc voilà, donner des
sous. Et surtout, parler de nous et partager, parce que ben, c'est ça qui fait que. qu'on est de plus en plus écouté.
Non, c'est mais là, on aime bien les petits commentaires et les 5 oui. étoiles sur les petites applis de podcast. Ça nous aide. Spotify, et ça nous fait plaisir en vrai.
Sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Les autres, oui. on s'en fout, hein. Personne ne les utilise.
Pas. Et puis, rejoignez-nous sur le Discord de Podcut. Venez papoter, c'est cool. Des bisous?
Oui!
Ah, dans un mois.
On a dit, c'était quoi le prochain?
Cœur perdu en Atlantide.
Première partie.
Eh, ça fait pas quand même téléfilm d'M6.
Vas-y!
Bah, tu vas pas être déçu.
Il y a une adaptation là pour le coup.
Il y a, si on reste sur ce qu'on avait dit, c'est un bouquin où il y a 5 nouvelles et on traitera 2 nouvelles dans la première partie et 3 dans la deuxième.
Yep.
Tout à fait. Ouais.
Peut-être on changera d'avis d'ici là, mais pour l'instant c'est ce qui est prévu.
Ouais.
Allez, des bisous tout le monde, bye bye.
Ce qui est drôle, c'est qu'on n'ira pas tous les mêmes nouvelles en même temps.
Chapitre 14. On retrouve Ralph devant chez lui, à se dire qu'il devrait quand même faire des excuses. Allez, ça commence. T'es tout fâché.
Là, t'as pas l'excuse parce que t'as pas le Covid.
Et là, je me suis dit, putain, c'est moi qui monte.
Ouais. Ah, j'allais te demander qui c'est qui monte, du coup. C'est
écoute, écoute, lâche ta ce qui grince. Merde.
Ah. Oui, sachez, chers auditeurs, que... malgré tous les subterfuges qu'on utilise pour améliorer les pistes, il reste pas mal de choses à faire au montage.
J'ai ça aussi.
On l'entend pas sur Discord en tout cas. Ah bah. C'est sympa pour lui, c'est sympa pour lui après.
Tu vas être content.
Allez, tu peux recommencer Julien à 15h45. C'est pour mon moi du futur.
Ah ouais, ça va être long.
Oh bah,
du coup, Julien, il paraît.
Ouais, j'ai vu.
Il est gavé, il se casse.
C'est trop pour moi.
Il préfère pas savoir.
Il je préfère être sûr que d'entendre ça.
Chapitre 29. La créature qui serait le roi pourpre et rendrait fou n'importe qui sans déguisement s'autoproclame le roi poisson.
Non, tu l'as refait depuis le début. Hein.
Ouais, j'allais dire, refais-la depuis le début.
Chapitre 29. La créature qui serait le roi pourpre et rendrait fou n'importe qui sans déguisement s'autoproclame...
Troisième.
C'est un jeune artiste surdoué de 4 ans. Dont la dernière production est un splendide dessin d'une tour noire au milieu d'un champ de roses.
Moi, si j'étais Julien, je te demanderais de reprendre cette phrase au début.
Non, maintenant que tu l'as dit, tant pis. De toute façon, ce sera monté.
Mais je voulais pas te couper, tu vois.
Ce sera dedans. En plus, tu coupes au plein milieu d'une phrase.
Ah, je croyais que t'avais fini ta phrase, pardon.
Du coup, je recommence. Allez, il reste une page d'épilogue.
Et on verra bien si sur ma piste on m'entend faire pipi ou pas.
Ah,
il y a bah, sur ce, c'était trop d'infos pour Craig. Too much information.
TMI, je m'en vais.
On a dit trop de gros mots.
Ouais, on a dit pipi, ça va.
Ça aurait été drôle qu'ils repartent.
Clotho et Lachesis décidèrent de demander de l'aide au niveau inférieur pour empêcher le meurtre du garçon et choisir Ralph et Loïs. Je recommence tout le truc parce que Nala a bougé le micro. Voilà. Décidèrent de demander de l'aide au niveau inférieur. Je recommence.
Ok, ratons la devoir anonyme.
C'est Julien qui a fait le conducteur il y a déjà de nombreuses années, il n'a pas évolué depuis.
Non, moi, j'ai jamais été déconstruit. Hein.
Hold up. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.